Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Pour des raisons techniques, on est à huis clos, donc le conseil va être enregistré et diffusé en simultané sur YouTube. Pour des raisons pratiques, si vous avez des appareils connectés en Wi-Fi, vous vous déconnectez et vous vous reconnectez sur le Wi-Fi d'Amérique. Sinon, vous allez trop consommer de bande passante, ce qui va interférer avec la diffusion sur YouTube. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, merci de vous être rendu disponible pour cette réunion du conseil municipal. Nous avons les excuses de Raymond Repellini, toujours souffrante, et qui me donne son pouvoir. Lise Lafont, qui sera absente parce qu'elle est cas contact Covid et donc qui donne son pouvoir à Mireille Papin. Florence Joly, qui est empêchée, qui donne son pouvoir à Michel Bizatia. Pascal Convert, qui est souffrante, pas Covid, mais souffrante, qui donne son pouvoir à Michel Baudry. Et Marie-Jeanne Scherrer, qui est également un petit problème de santé, et qui donne son pouvoir à Christine. Pas de nouvelles de Myriam Chériani, mais je pense qu'elle ne viendra pas. D'ailleurs, je ferai un point avec elle très prochainement sur sa situation. Est-ce que vous avez des questions avant que nous puissions commencer ce conseil? Donc, le premier point, c'est le procès-verbal de la séance précédente du 1er février 2021. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce procès-verbal? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Il est adopté à l'unanimité. Merci. Le premier point de cet ordre du jour, qui va être dense puisqu'on va vous présenter les résultats et le budget 2021, c'est l'installation d'une conseillère municipale. Suite au décès de Mme André Chaise, il convient de combler le siège devenu vacant au sein du conseil municipal. Au terme de l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste ou sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La candidate suivante sur la liste est Mme Corinne Mourgue. Cette dernière est donc appelée à siéger à compter de la présente séance. Elle n'est pas là parce qu'elle était un petit peu prise de court par rapport au conseil, mais je l'ai eue. Elle a bien validé son adhésion au conseil municipal et elle sera présente lors de la prochaine réunion. Le second point concerne l'approbation des comptes de gestion 2020 pour la commune et le service des pompes funèbres. Et c'est Michel Bizatia. Oui, et c'est Michel Bizatia qui va prendre la parole sur ces dossiers.
Oui, bonsoir, Michel Bizatia. Donc, je vais vous refaire la présentation des finances. Alors, je m'excuse un peu pour les membres du conseil municipal qui font partie de la commission finances parce qu'ils ont déjà eu un petit peu le programme. Mais je vous promets, je vais faire plus court que la dernière fois parce que sinon, on va être couché très tard. Voilà. Donc, effectivement, c'est la première année c'est la première présentation donc qu'on fait de cette mandature pour une année pleine puisque l'année dernière, effectivement, le budget primitif avait été voté en mars 2020 par l'ancienne municipalité. Donc, bien entendu, notre but, c'est d'améliorer les finances communales. C'est l'axe, effectivement, politique fort de la mandature et de notre équipe, bien entendu. Et quelles en sont les priorités? On va le voir tout de suite. Donc, les priorités budgétaires, il y en a essentiellement quatre. c'est d'améliorer la visibilité financière pour continuer à maîtriser les dépenses et optimiser les recettes. C'est toujours le même refrain, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre solution pour maîtriser un budget. De poursuivre et d'amplifier le désendettement, puisque je vous rappelle qu'on était à 1 000 euros il n'y a pas très longtemps. On est descendu à 850, mais on aimerait descendre encore un petit peu plus le montant de la dette par habitant. Donc, il faut l'alléger et bien entendu être sélectif dans les emprunts. Et puis, je vous reparlerai tout à l'heure du petit problème qu'on a eu fin 2020 sur effectivement nos établissements qui nous prêtent de l'argent. Poursuivre bien entendu les investissements indispensables. Il est hors de question de tout arrêter, mais il faut le faire de manière raisonnée, maîtrisée et durable. Voilà, c'est là où on pourrait se dire que, au lieu de dire, quand on prévoit des investissements, au lieu de se dire qu'est-ce qu'on a besoin de faire et qu'est-ce qu'on a besoin d'emprunter pour pouvoir faire ces travaux-là, faire plutôt la démarche inverse, se dire quelle est la somme maximale que l'on peut emprunter et avec cette somme-là, qu'est-ce qu'on peut faire comme investissement. Ça change un petit peu la donne et ça change un petit peu la façon de voir le budget. Et puis, bien entendu, essayer de retrouver un peu de l'ambition parce qu'on verra plus tard que pour une commune de notre strate, la somme qu'on investit est relativement faible. Alors, je vais revenir très, très, très rapidement sur les principes. Je les avais remis pour la commission finances parce qu'effectivement, c'était intéressant. C'est intéressant aussi pour les membres du conseil de revenir sur des essentiels du budget communal. Donc, bien entendu, les finances, on sait qu'on ne peut pas faire politique. On ne peut rien faire. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais c'est la vérité. Et on ne peut pas avoir une ambition et une politique municipale si on n'a pas les finances qui vont avec. Parce qu'effectivement, on ne peut pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut rien faire si on n'a pas les finances qui suivent. Alors, je vous rappelle quelques règles. Un budget, c'est nécessairement voté en équilibre. Entre chaque section doit être votée en équilibre. Les sections de fonctionnement et la section d'investissement. Nous, les collectivités, on n'a absolument pas le droit de voter un budget en déficit. Il n'y a qu'une seule catégorie qui a le droit de voter le budget en déficit, c'est l'État. Et nous, on n'a pas le droit. Donc, on retrouve bien entendu les grandes catégories de dépenses et de recettes qu'on verra tout à l'heure dans les camemberts, les charges de personnel, les gestions courantes. Il y a effectivement quelques grandes catégories qui sont très parlantes et qui permettent effectivement de voir où effectivement on peut améliorer peut-être, peut-être faire un peu des économies, améliorer peut-être les recettes. C'est dans ces grandes catégories qu'on retrouve ça. Notre excédent de fonctionnement, c'est-à-dire la différence que l'on a en fin d'année entre ce qu'on a dépensé et ce qu'on a encaissé, pour une commune, c'est obligatoire ou pratiquement, sinon c'est très mauvais signe, on est obligé d'être en excédent, parce que sinon ça veut dire qu'on a mal géré. Et cet excédent-là va nous permettre effectivement de mettre en œuvre une politique d'investissement. Et plus on peut mettre d'excédent de fonctionnement, moins on va avoir besoin d'emprunter. C'est un peu comme vous dans le budget familial. Si vous avez l'argent nécessaire, si vous avez l'argent liquide pour acheter quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire un emprunt pour l'acheter. Ben, nous, c'est exactement la même chose. Et le recours à l'emprunt est possible sous certaines conditions. Je rappelle une notion essentielle, c'est que l'emprunt n'est possible que pour les dépenses d'investissement. Jamais, en aucun cas, on ne peut emprunter pour faire des dépenses de fonctionnement. Ça veut dire qu'on serait vraiment, vraiment dans une situation catastrophique. On serait ce qu'on appellerait dans un ménage ou dans une personne privée, on serait en surendettement. À partir du moment où vous avez besoin d'emprunter pour vivre, c'est très compliqué. Donc, effectivement, il faut prendre aussi en compte le droit de rappartenance à Saint-Étienne Métropole quand on a bâti le budget. Prendre en compte le contexte sanitaire, puisque depuis l'année dernière, malheureusement, on a des dépenses supplémentaires et des recettes qui ne rentrent pas lorsque nos services sont fermés. On a des ratios financiers qui sont défavorables en comparaison des autres communes, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais par contre, on a effectivement des finances qui sont en amélioration depuis fin 2019, début 2020. Effectivement, on a amélioré. Alors, pourquoi on dit toujours qu'on a une situation un peu particulière sur Saint-Priest ? Je le prends très rapidement et là, je prends les ratios 2019 parce que c'est sur les fiches de la comptabilité, de la Direction générale de la compte des finances. Et on n'a jamais les ratios, on a toujours une année de décalage sur les ratios. On voit que sur les dépenses d'investissement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on dépense à Saint-Priest-en-Jarret 230 euros par habitant, là où dans les autres communes de la même strate, c'est-à-dire des communes de 5 à 10 000 habitants, c'est plutôt 370 euros. Mais par contre, vous voyez que les dépenses de fonctionnement, c'est l'inverse. On dépense 1 266 euros par habitant, alors qu'ailleurs, on n'en dépense que 947. Donc, c'est vraiment, là, c'est la base même du problème un peu de Saint-Prier. Et ça, c'est effectivement dû à une chose. Pourquoi ça ne veut plus avancer? Ça ne marchait plus. Merci. Une chose essentielle, c'est le poids de nos charges de personnel. On voit que nous, à Saint-Prier, en pourcentage du budget de fonctionnement, nos charges de personnel représentent 65%, alors qu'on devrait, enfin, pour les autres communes, c'est plutôt 56, 829 euros par habitant contre 536. Donc forcément, ça, on peut dire, ça nous plombe effectivement le budget de fonctionnement. Et à partir de là, c'est compliqué parce que, on vous l'a expliqué plusieurs fois, c'est compliqué de réduire les charges de personnel. On ne peut pas supprimer des postes parce qu'effectivement, ce sont parce qu'on a tous les services qui vont en face. Hein, je vous rappelle, la médiathèque, la crèche, le NEC, l'EMA, enfin tous ces services-là qui font bien entendu, qui sont importants parce qu'ils font la douceur et l'attrait de la commune de Saint-Prier. Mais c'est pas effectivement sans une charge importante. Où est-ce que tu as pris du coup? Non? D'accord. Donc, je vous rappelle, mais alors, très rapidement, pourquoi notre dotation globale de fonctionnement a complètement disparu. En 2013, on avait 661 453 euros. En 2020, on a tout perdu. Donc, une perte cumulée de 2013 à 2020 de 3 300 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on a un potentiel fiscal trop. Alors, il y avait une baisse annoncée de l'État, ça c'est sûr. On le savait que les dotations allaient baisser puisque l'État voulait un petit peu réguler les dépenses des collectivités locales. Mais nous, on a été pénalisés à cause de potentiel fiscal trop élevé, puisque sur Saint-Prier-en-Jarret, on a des bases, par exemple, des bases, ce qu'on appelle ce sur quoi on bâtit l'impôt et sur quoi on le calcule. Sur Saint-Prier-en-Jarret, on est à 1 795 euros par habitant contre 1 359 dans les autres communes. On sait qu'à Saint-Prier, il y a quand même une catégorie socio-professionnelle élevée et des gens qui, a priori, ont des moyens supérieurs à certaines communes. Mais par contre, on est resté en taxe d'habitation à 10,02%, alors que sur les autres communes de même strate, on était à 15,21%. Donc, effectivement, on a eu, sur la dotation, sur la DGF, un double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on a eu la baisse obligatoire et normale qui était prévue par l'État, mais en plus, on a été pénalisé, on a eu encore à chaque fois des sommes qui nous ont été enlevées parce qu'effectivement, l'État partait du principe que si on voulait avoir plus de revenus, ben, il fallait simplement le demander à nos contribuables. Donc, la faiblesse de l'investissement, hein, je vous le rappelle, donc, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dégager assez d'argent de notre section de fonctionnement. Et on voit que la cave brute étant à 1 378 000 euros. Donc, je vous rappelle, la cave brute, c'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Et par contre, on a une cave nette à 528 000 parce que de ces 1 378 000, il faut enlever le capital de l'emprunt. Et le capital de l'emprunt représente à peu près 800 000 euros. Donc effectivement, ce qui nous reste vraiment à dépenser, c'est 528 000 euros, ce qui n'est quand même pas très élevé pour une commune comme nous. Et par exemple, on ne peut pas non plus tout basculer le fonctionnement en investissement, parce qu'il faut quand même garder un petit coussin de prudence et garder une petite réserve. Donc par exemple, en 2019, on a investi seulement 206 000 en investissement, ce qui est quand même très peu pour une commune de notre... Et bien entendu, comme on ne peut pas autofinancer, qu'est-ce qu'on fait? On recourt à l'emprunt et en 2020, on a emprunté 650 000 euros. Alors, on va venir au compte administratif 2020. Donc, je vous rappelle que le compte administratif, c'est le bilan de l'année N-1, c'est le bilan de l'année écoulée. À partir du 1er janvier, on commence à faire les comptes, on fait les additions et on tire tout ce qu'on a à dépenser. Donc, en fonctionnement, on a dépensé 8 244 270 et on a touché 9 918 928 euros. Donc, tout ça, pourquoi vous me dites que l'excédent au milieu fait 1 674 000 ? Parce que si on fait la différence entre les deux chiffres, on n'arrive pas à ça. C'est parce qu'effectivement, il faut rajouter à la somme de l'excédent de l'année qui est de 260 000, je crois, quelque chose. Enfin, on le verra tout à l'heure dans le compte de gestion, j'ai plus le chiffre exact. on rajoute les excédents des années antérieures. Et donc, effectivement, on ressort au compte administratif 2020 avec un excédent d'1 674 658, qui est quand même une somme intéressante, qui est la meilleure somme depuis 2013. Excepté une année qui était un peu exceptionnelle. Mais c'est
c'est l'excédent cumulé, hein, année après année, on est bien d'accord. Ce n'est pas le résultat de l'exercice qui, lui, on vous donnera le chiffre tout à l'heure, est aux alentours de 300 000 euros.
Mais on voit bien, donc les camemberts sont intéressants parce qu'on voit bien donc, ce que je vous parlais, les grandes catégories, et on voit bien qu'effectivement, les charges de personnel représentent 63% de nos dépenses de fonctionnement. Les charges générales, 21%. Tout ce qui est charges générales, c'est tout ce qui fait fonctionner la commune. Hein. C'est tout ce qui nous permet de payer les carburants, l'électricité, le chauffage, les fournitures de bureaux, enfin tout ce qui permet à une mairie de fonctionner. Là, la charge financière représente que 2% parce que ce sont les intérêts des emprunts. Et c'est vrai qu'en ce moment, heureusement, on a beaucoup d'emprunts qui ont un taux d'intérêt relativement faible. Et toutes les autres charges, qui sont les participations, par exemple, au service d'incendie, tout ça, à tous les autres services, représentent 7%. Et comment on finance ce fonctionnement et comment on peut arriver à un excédent? Eh bien, vous voyez que essentiellement, ce sont les impôts, hein, les contributions directes, qui représentent 40% des recettes. Nos attributions de compensation et dotation de ce communautaire qui représentent 23%. Donc c'est là où on retrouve malheureusement notre baisse de DGF, parce qu'avant c'était à peu près équivalent entre les contributions directes et les dotations, ce qui n'est plus le cas. On retrouve la vente des produits et services, hein, c'est là où on retrouve la participation des gens à tous les services que nous proposons. Bon, il y a des dotations, des taxes, voilà. Et on retrouve ce que on vous disait, ce que Monsieur le maire vous disait, c'est l'excédent reporté, c'est-à-dire les excédents cumulés des autres années, qui représentent quand même 12% de nos recettes de fonctionnement. Donc voilà, on ressort avec un excédent fonctionnement qui est intéressant d'1 674 000, qui pourrait bien entendu être amélioré, et on va essayer de le faire. Donc là, je ne veux pas vous donner le. Ce qui est intéressant, c'est de voir le total des dépenses. Hein, voilà, 9 240 000, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Et les recettes, 9 240 000. Donc les prévisions sont les mêmes forcément. Et on a touché 9 978 928. Donc un excédent d'1 674 000. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si vous voulez. Je ne vais pas vous reprendre toutes les lignes en une à une parce que.
Donc là, on vous fait une présentation très synthétique, très globale des documents que vous avez reçus. Vous avez vu que les documents, certains ont plus de 100 pages, avec beaucoup de pages où il n'y a rien d'ailleurs, parce que ce sont des documents types nationaux. On y reviendra tout à l'heure, je vous en commenterai certains qui sont quand même assez intéressants. Là, ce qu'on voulait, c'est que vous ayez bien une vision globale des masses financières. Après, le détail de ce qui constitue les charges de personnel, on l'a bien compris, les charges générales, ça, vous le retrouvez dans les documents. Et vous pourrez voir ce que représente la consommation d'eau, l'électricité, les coûts de la cantine, etc. Là, c'est qu'on est bien à l'esprit les enjeux financiers. 1,6 million d'excédents, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est insuffisant, et on le répète, quand on sait qu'on sort 800 000 euros, plus de 800 000 euros, tous les ans en remboursement de capital. Donc, pour être à l'aise, il faudrait presque qu'on ait quasiment le double en capacité d'autofinancement. On n'en est pas là aujourd'hui. Donc, voilà, appropriez-vous bien les masses financières, c'est ce qui est important, parce que c'est aussi à partir de là qu'on va pouvoir parler du budget après.
Voilà. Donc, ce qui est important aussi, vous voyez, il y a quand même un chapitre qui s'appelle « Dépenses imprévues ». Alors ça, effectivement, on ne réalise jamais. Hein. C'est notre petite cagnotte, c'est notre tirelire. Bon, sur l'année 2020, c'était à 402 000. Vous verrez que sur l'année 2021, on monte à 600 000. C'est effectivement un coussin de sécurité qui nous permet et qui va ressortir obligatoirement dans l'excédent qu'on retrouvera fin 2021. Donc, en investissement, vous voyez, on est sur des sommes beaucoup moins importantes. Hein, tout de suite, on n'est plus dans les 9 millions, mais on n'est plus que dans les pratiquement 2 millions. Donc, on a dépensé 1 919 988. On a encaissé 1 954 152. Donc, on a un excédent de 33 163 euros. Alors, en investissement, par contre, on peut très bien avoir une année en déficit. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Non, c'est pas grave parce qu'en fait, vous savez qu'autant en fonctionnement, on arrête les comptes au 31 décembre, on remet tout à zéro et on repart sur de nouvelles sommes à partir du 1er janvier. En investissement, vous avez des programmes, ce qui veut dire qu'on a des sommes qui se reportent. Parce que quand vous faites, bah, quand on a fait le Clos Bayard, par exemple, on l'a fait sur 3 exercices. Parce que ce n'est pas fait en une année entre l'étude, l'architecte, et puis les travaux et les derniers travaux d'aménagement de l'extérieur. Donc on reporte, il y a des choses qui se reportent d'une année sur l'autre. Et de la même manière, les subventions ne se payent que lorsque on ne reçoit les subventions que lorsque les travaux ont été faits. Donc on a forcément un décalage entre les dépenses et les recettes. Bon, cette année, ça tombe qu'on a 33 163 euros d'excédent. L'année dernière, on avait 400 000 euros de déficit, mais parce qu'on avait des subventions qui n'étaient pas tombées en 2020 et qui sont tombées en 2019 et qui sont tombées début 2020. Donc voilà, vous voyez que sur les dépenses d'investissement, ben là aussi, une grosse partie, c'est les remboursements d'emprunt. Hein, c'est les 800 000 euros dont on vous parlait. Donc c'est quand même une grosse partie de nos investissements. Les acquisitions foncières et les matériels divers, qui se représentent une petite somme, mais on voit pas le pourcentage. Bon, c'est pas grave. Les travaux de bâtiment pour 5%. Bon, après, vous avez les travaux en régie. C'est ce que nous réalisons avec notre personnel et on facture quand même tout ce qui est matériel et tout ce dont on a eu besoin pour faire les travaux. Et vous voyez qu'en 2019, on avait un déficit, donc on le retrouve bien dans les dépenses, puisqu'en 2019, je vous disais, on avait un déficit d'investissement qui était de 24% et qui représentait bien entendu une dépense sur 2020, puisqu'on avait de l'argent en moins. Au niveau des recettes en investissement, ben, l'emprunt représente 38%, donc important. Sur 2020, il a été moins important. Parce que
là aussi, je voudrais revenir sur des notions. Quand on vous dit on emprunte 650 000 euros de financement complémentaire au budget, ça, c'est l'équilibre budgétaire. Dans le compte administratif, vous allez trouver ce qu'on a réellement encaissé comme emprunt. C'est-à-dire qu'un emprunt qu'on négocie pour l'année, ça ne veut pas dire qu'on va le tirer impérativement avant le 31 décembre. Ce qui fait que comme ça, on peut avoir des décalages. Une année donnée, un montant encaissé moindre que ce qu'on avait budgété, et l'année suivante, des montants d'emprunt encaissés supérieurs à ce qu'on avait budgété. En fonction de notre... Là, c'est de la trésorerie. C'est-à-dire qu'on a des lignes de trésorerie, 650 000 euros négociés au mois d'octobre. Il y a une partie qu'on a encaissée, qu'on a été tirée en décembre, et l'autre partie que début janvier. Donc la partie en 2020 qu'on a encaissée que début janvier, vous ne l'avez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Entre le budget et la réalité du fonctionnement, il y a quand même une nuance. Voilà. C'est aussi important.
On va le retrouver dans le budget primitif. C'est pour voilà. Ça qu'on aura 1,1 million d'emprunt en 2021, alors qu'on n'emprunte pas 1,1 million en 2021. On emprunte, voilà. Et je vous rappelle les difficultés qu'on a eues hein, auprès de nos organismes prêteurs, puisque la Caisse d'épargne nous avait imposé d'avoir un autre organisme qui finance la moitié, et qu'à partir de septembre 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait pris la décision d'arrêter tout investissement qui n'était pas complètement indispensable. C'est pour ça que cette année, effectivement, les dépenses d'investissement en 2020 sont quand même relativement faibles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme recette? On a ce qu'on appelle les dotations et les taxes d'aménagement. La dotation, c'est ce qu'on appelle le fonds de compensation de TVA. On récupère la TVA de toutes les factures qu'on a eues en investissement, mais avec 2 ans de décalage. Et les taxes d'aménagement, c'est ce que payent les gens lorsqu'ils font des travaux. Il y a une partie qui s'appelle taxes d'aménagement. Et c'est vrai qu'en 2020, on a eu une bonne rentrée de taxes d'aménagement, mais c'est toujours assez difficile à prévoir parce que c'est les services financiers qui les calculent et nous, on reçoit la somme à la fin, mais on sait jamais vraiment. C'est très difficile de prévoir ce qu'on va pouvoir toucher d'une année sur l'autre. Donc voilà pour l'investissement. Donc c'est pareil. Hein, voilà, on retrouve le détail. Donc les remboursements d'emprunt, l'étude des logiciels, ça c'est tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire les licences de logiciels. Et là, vous avez une grosse somme, vous voyez, de 161 180 et on a dépensé que 10 322. Parce que je vous rappelle que pour l'opération EPORA, qui risque de nous coûter 500 000 euros en fin d'opération, on a décidé de budgéter et de prévoir au budget 100 000 euros chaque année. Donc effectivement, c'est pour ça que vous retrouvez cette somme de 161 000, mais bien entendu, les 100 000 euros ne seront dépensés qu'en fin d'opération et on souhaite que ça ne soit pas 500 000, mais au moins, on sera tranquille, on a prévu toutes les années. Voilà. D'ailleurs, après, vous avez l'acquisition foncière, les travaux de bâtiment, les remboursements de la... Bon, ça n'existe pas. Remboursement de taxes d'aménagement, c'était en 2020. Ils s'étaient trompés, ils nous en avaient trop versé, donc en 2020, ils nous ont demandé de les rembourser. Ça aussi, c'est sympathique sur un budget quand ce n'est pas prévu. Voilà. Et tout ce qui est en italique, ce sont des opérations d'ordre. vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu compliqué et c'est des jeux d'écriture. Voilà, donc on va passer au budget primitif 2021. Donc on a prévu,
Est-ce que vous avez des questions sur le compte de fonctionnement ?
Le compte administratif,
Roger. Oui, administratif. Parce que sinon, bon, après, je reviendrai dessus tout à l'heure sur l'ensemble des documents que vous avez, sur des petits points bien particuliers pour attirer votre attention. Mais l'idée, c'est un petit peu de vous présenter l'ensemble, la cohérence entre 2020 et 2021. Vous n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des choses qui nécessitent des précisions.
Voilà. Donc, le budget primitif 2021, vous avez qu'une somme, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait que les budgets soient équilibrés. Donc, forcément, vous avez la même somme en dépenses et en recettes, puisque ce sont des prévisions, là, et ce ne sont plus des réalisations. Et effectivement, on peut s'interroger sur la différence entre le réalisé 2020, qui, je vous rappelle, est à 8 244 000, et la prévision 21, qui est à 9 698 000. On dit, oulala, mais on a bien prévu de dépenser beaucoup. Alors, il faut se dire qu'on a une chef comptable qui est très prudente. Très, très prudente. Donc, effectivement, elle a toujours tendance à, et c'est bien, parce qu'effectivement, on n'a pas de mauvaise surprise, et je ne sais pas si, vous vous rappelez, en fin d'année, on vous a fait voter quelques décisions modificatives, mais c'est vraiment à la marge, parce qu'effectivement, on a des prévisions qui sont quand même bien, bien prévues et bien un peu larges, et qui nous permettent effectivement de ne pas forcément avoir à y revenir en cours d'année. Mais on peut estimer, vous verrez tout à l'heure, je vous ai fait quelques courbes en retraitant un peu ces chiffres, parce qu'effectivement, ça fait un peu peur quand on se dit, oulala, mais on passe de 8,2 millions à 9,6 millions, ça fait quand même 1,2 million de plus, ça fait quand même 1,4 million de plus, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est très prudent. Donc les charges de personnel, vous voyez toujours, alors un petit peu moins, 57%, mais bon, c'est toujours très difficile à prévoir. En plus, on a monté un peu les charges de personnel parce que sur 2020 en réalisation, on a eu un peu moins parce qu'à cause du Covid, quand le centre de loisirs a été fermé, on a tous les agents horaires qui n'ont pas été payés. Donc forcément, autant les fonctionnaires, eux, ont bien entendu touché leur salaire, mais les gens qui étaient en taux horaire n'ont pas été payés. Donc effectivement, ça nous a fait une charge de personnel en moins. Les charges générales à 24% et on retrouve exactement. Donc les dépenses imprévues, vous voyez, qui représentent quand même 6%. Et puis les autres charges qui représentent des petites sommes, mais qui sont importantes. Et comment on finance tout ça? Eh bien, toujours pareil, par les contributions directes. Donc je vous rappelle qu'on a augmenté le taux d'un et demi pour cent. Donc on va toucher 40 000 euros de plus l'effet cumulé de l'augmentation de l'année dernière. Donc ça va nous faire une somme un petit peu plus supplémentaire. L'attribution de compensation et DSC, elle reste exactement pareille, puisque Saint-Étienne Métropole a décidé de ne pas bouger, de ne pas toucher l'attribution de compensation cette année. On va toucher exactement la même somme que l'année dernière. Et l'excédent reporté, vous voyez que cette fois, l'autre tout à l'heure représentait 12%, représente 17%, c'est normal, puisqu'il est supérieur à celui de l'année avant. Donc bien entendu, on retrouve les détails. Donc vous voyez, les charges générales, les charges de personnel, voilà, donc. Effectivement, une fois que vous avez enlevé les charges de personnel et les charges générales, vous avez quand même une très, très grosse partie du budget. Les autres comptes sont quand même beaucoup, beaucoup moins importants. Voilà. Et pareil, quand on vous enlève les contributions directes et les attributions de compensation, vous avez l'essentiel de nos deux lignes de recettes qui sont les plus importantes. Alors là, c'est pareil. Autant on gonfle les dépenses, autant on a tendance à minimiser les recettes pour être sûr. Parce que autant on est obligé de prévoir les dépenses au centime près, puisque si on n'a pas l'argent, le trésorier ne paye pas. Si on a prévu 10 000 euros en charge générale et qu'on veut en dépenser 12 000, ça ne sera pas possible. Autant les recettes, bien entendu, si on en touche en plus, il n'y a pas de souci pour les encaisser. Alors, je vais faire une analyse détaillée avec quelques petits postes particuliers. Avec une évolution, par exemple, vous voyez, sur les charges de fonctionnement, on est parti en 2017 à 9 166 000 pour arriver en 2020 à 8 244 000. Donc, c'était quand même intéressant. On voit qu'on a quand même bien maîtrisé sur cette période-là les charges, parce qu'effectivement, sur 2017, on était un peu élevé et on a demandé un gros effort, encore une fois, au service. Et encore une fois, je les en remercie parce qu'ils jouent vraiment le jeu et c'est vraiment sympathique parce qu'ils sont avec nous et on sent qu'ils sont impliqués dans cette histoire. Sur 2020, donc on est arrivé à 8 244 000. Donc effectivement, vous voyez la différence sur la prévision 2021. Moi, j'estime que, déjà, si on arrive à 8 648 000, l'essentiel, ça serait, l'idéal, ça serait d'arriver à dépenser moins ou pas plus, ou très peu plus que sur 2020. Mais bon, il faut être raisonnable et prévoir un peu plus. Mais moi, je pense qu'il faut être prudent. Et c'est vrai qu'on a le contexte sanitaire qui plombe un peu les prévisions, parce que comme on ne sait pas trop comment ça peut tourner encore, il faut mieux vaut mieux être prudent. Sur les charges générales, c'est pareil. Vous voyez qu'elles descendent.
Simplement pour revenir sur cette logique. Tu peux revenir à l'image précédente, si c'est possible. C'est pas important de toute façon. Donc la logique, c'est de dire les dépenses égales les recettes. Dans les recettes, on met l'excédent, 1,6 million. Donc il faut qu'on gonfle, je dirais presque artificiellement, les dépenses pour l'équilibre. Et c'est pour ça que vous trouvez des dépenses imprévues cette année à hauteur de 600 000 euros. On avait 400 000 l'an dernier qu'on n'a pas dépensé. Cette année, on a mis 600 000 que peut-être on ne dépensera pas. Il faut bien les mettre quelque part pour que le budget soit équilibré. Ou alors, on pourrait prendre le risque de ne pas mettre l'intégralité de l'excédent, mais là, on pourrait avoir des mauvaises surprises. Donc, on globalise les deux sommes, c'est le même montant, dépenses-recettes, en sachant très bien qu'on espère encaisser davantage de recettes que ce qu'on prévoit, et donc d'avoir moins recours à notre excédent, et en même temps de moins dépenser, et de ne pas avoir recours aux recettes imprévues, aux dépenses imprévues, pardon.
Non, on aura plus.
On aura plus. Par exemple, dans tous les droits de mutation et autres, notre chef comptable, elle se base sur ce qu'elle connaît. Un exemple également sur les impôts locaux. Nous, on raisonne par rapport à ce qu'on connaît, on prend les bases, on calcule les taux, etc. L'an dernier, on a eu une bonne surprise. Dans la réactualisation des bases, on a eu, je crois, 200 000 euros, qui n'étaient pas prévus. Parce que si on est trop optimiste dans nos prévisions, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc il vaut mieux partir à minima de ce qu'on connaît, et puis après avoir des bonnes surprises, plutôt que d'être obligé de refaire un budget en urgence pour équilibrer. Donc voilà, c'est tout la logique. Mais dans les recettes, après, on peut avoir effectivement d'autres éléments qui viendront s'ajouter, qu'on ne veut pas forcément intégrer, parce que ça ne serait pas forcément prudent. Parce que ce sont les règles de la comptabilité publique, l'excédent, il repart après en financement potentiel des dépenses. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser. Au même titre que les 600 000 euros de dépenses imprévues, j'espère bien qu'on n'aura pas besoin de les utiliser.
Oui, puis ça peut permettre de financer l'investissement aussi. C'est-à-dire qu'on met l'excédent brut dans le fonctionnement et après on peut en basculer une partie dans l'investissement. Mais il faut qu'on laisse cet excédent brut, sinon on n'équilibrera pas. Enfin, voilà, c'est quand même... En fait, c'est la richesse générale de la commune. C'est pas simplement ce qu'on dépense une année, c'est tout ce qu'on a en capacité de financement. En fait, c'est pour ça qu'on met l'excédent brut. Voilà. Et sur les recettes, par exemple, on est très prudent sur ce qu'on touche de la CAF. Vous savez que tout ce qui est centre de loisirs, tout ça, c'est tout la crèche, tout c'est financé par la caisse d'allocation familiale. Et on est très prudent parce que on a beau avoir eu pendant 12 ans une conseillère municipale qui travaillait à la caisse d'allocation familiale, qui a essayé de nous expliquer 10 fois comment c'était calculé. On n'a jamais compris comment c'était calculé. Donc on ne sait pas vraiment combien on touche chaque année. Donc on préfère, on met le minimum. Et puis tout ce qu'on touche en plus, voilà. Et particulièrement cette année, parce que la CAF s'est engagée. Vous savez que la CAF nous paye sur le nombre de journées qu'on fait. Or, le centre de loisirs a été fermé, la crèche a été fermée. Donc normalement, on devrait avoir un financement beaucoup moindre. Mais ce qui ne va pas nous arranger, parce que le personnel, on l'a quand même payé. Alors même si on a eu quelques dépenses en moins, parce qu'on n'a pas acheté de lait, on n'a pas acheté de couches, on a quand même payé le personnel qui représente quand même la majorité des dépenses des services. Donc normalement, la caisse d'allocation familiale s'est engagée à nous verser en 2021 la même somme qu'ils nous ont versée en 2020, de ne pas tenir compte de la baisse de... Mais il vaut mieux être prudent, parce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, n'est-ce pas? Donc, on a préféré sous-estimer un peu ce genre de choses. Donc, les charges de personnel, voilà ce que je vous disais, donc qu'elles ont quand même diminué un petit peu. On a prévu sur 2021 une augmentation, mais on espère ne pas avoir. Alors, peut-être un petit peu, parce que par rapport à ces agents à taux horaire, et puis on a l'effet de salariés qui sont arrivés pour la première fois à temps plein, une année complète, et qui peuvent effectivement nous faire augmenter un peu nos charges de personnel, parce qu'on les a eues sur 2020 que sur quelques mois. Les recettes de fonctionnement, donc on voit que elles diminuent, mais ça c'est effectivement la baisse de la dotation, hein, essentiellement, puisqu'on est passé en 2017 de 10 millions à 10 millions 5 à 9 millions 9, donc ça fait quand même une drôle. On prévoit encore moins cette année, mais j'ose espérer, si les taxes d'aménagement veulent bien être au même niveau, qu'on aura à peu près la même somme sur 2021 que sur 2020. Les recettes fiscales, vous voyez par contre, elles ont augmenté. Forcément, puisqu'on a augmenté, on voit bien le décrochage sur 2019, hein, puisqu'en 2020, on a augmenté les impôts. Forcément, ça se voit, ça c'est une recette qui se voit tout de suite, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est applicable et immédiatement, et donc on voit tout de suite le bénéfice. On prévoit moins cette année, c'est un peu, bon, moi je n'étais pas forcément d'accord, j'aurais bien forcément mis la même somme, mais là c'est pareil, soyons prudents, on a eu des années où on a eu des rôles fiscaux qui étaient plus bas, on n'a jamais su pourquoi, même le préfet n'a pas su nous expliquer pourquoi, donc effectivement, il faut quand même appliquer une certaine prudence, on aura peut-être une bonne surprise sur la fin de l'année. Sur les attributions de compensation, là ça ne change pas, vous voyez, puisque 2021, ils nous ont prévu effectivement de nous les donner exactement la même somme. Sur la vente des produits et services, alors c'est ce que je vous disais, c'est ce que les gens payent, c'est la participation des parents et de tous les bénéficiaires des services. Sur 2020, vous voyez que ça a diminué, forcément, puisqu'on a eu beaucoup de services qui ont été fermés quand même pendant 3 à 4 mois et même plus. On a prévu peu sur 2021. Pour l'instant, on n'a pas eu de fermeture d'aucun service, mais on n'est pas à l'abri et on entend suffisamment parler de la troisième vague pour être prudent et pas se retrouver avec une fermeture de service encore pendant 1 ou 2 mois qui nous ferait baisser les recettes. Donc, on a prévu effectivement une somme moindre. Sur les dotations, c'est pareil, hein. Les dotations, elles ont plutôt tendance à diminuer et donc on a prévu sur 2021 une baisse encore un petit peu, mais bon, on va essayer de rester si on arrivait à 1 million, ça serait très bien. Voilà. Donc, on a effectivement amélioré les excédents de fonctionnement. La courbe, je vous l'avais déjà présentée sur le débat d'orientation budgétaire. On voit qu'effectivement, 2020 a été une année la meilleure année depuis 2014, si on excepte l'année 2016. Mais je vous l'avais expliqué, c'était une cession de la clinique du Parc qui nous avait apporté d'énormes droits de mutation et qui donc, ça a été une bonne surprise, mais c'était malheureusement one shot. On n'a pas eu ça les autres années. Voilà, toujours l'amélioration des excédents de fonctionnement. Un petit graphique qui vous permet de voir que nos excédents de fonctionnement, eh bien, en 2017, ça représentait 12 ou 14%, et qu'on les a un peu augmentés à 17% sur 2020, et on espère au moins la même chose, mais sinon mieux sur 2021. C'est important parce que plus on fait d'autofinancement et plus on peut se permettre de prévoir des investissements plus importants. Donc notre capacité de désendettement, ça aussi je vous l'avais déjà expliqué, elle est descendue en dessous du seuil de vigilance de 10 années pour descendre à 5 années 94. C'est quand même intéressant parce qu'on était quand même monté en 2017 sur des indicateurs qui étaient un petit peu inquiétants. Et surtout, c'est un des indicateurs que regardent les organismes de crédit. Et c'est vrai que si on a eu des difficultés sur 2018 et 2019 pour trouver des organismes qui nous prêtent, c'était à cause de cet indicateur-là. Donc on espère que cette année, vu on a été bien sage et qu'on a bien réussi à améliorer nos résultats, on aura moins de difficultés pour trouver des emprunteurs. Alors, les investissements 2021, donc effectivement, le budget est limité aux investissements prioritaires. Donc, on va faire de la voirie avec le budget de Saint-Étienne Métropole, essentiellement la rue Martouret, rue de la Piau, l'impasse de la Bargette. On va encore faire de l'éclairage public, de l'enfouissement d'éclairage. On va terminer les travaux de l'EMA, mais ça, c'est toujours en régie, hein. Ils ont pratiquement terminé. Alors, au moins, le confinement et les mesures sanitaires ont eu du bon. Ça leur a permis de pouvoir travailler de façon beaucoup plus rapide sur l'EMA, puisqu'il y avait très peu de cours qui étaient donnés sur place. Et on va changer les dalles du plafond du NEC qui sont effectivement défectueuses et qui sont en train de tomber. Donc on a recours à de nouvelles solutions, hein, ce qu'on vous a expliqué, la mutualisation intercommunale comme sur la balayeuse, hein, qu'on a achetée à 2 communes. On recherche systématiquement des subventions, hein, ça c'est important parce que on ne peut pas attaquer les travaux. Il faut absolument demander les subventions avant d'attaquer les travaux, sinon effectivement on ne peut pas les avoir. Et bien entendu, on va maîtriser les projets et on met en place un plan pluriannuel d'investissement. Là, on est en train de travailler dessus avec les services et on espère vous en donner une première ébauche pour notre séminaire du mois d'avril, si on arrive à le faire, si le variant anglais ne vient pas encore nous compliquer. Voilà, donc sur 2021, eh ben, on n'a pas beaucoup augmenté le montant des dépenses d'investissement. On a encore été une fois très prudent. On a encore 47% de remboursement d'emprunt, hein, c'est encore important. Donc on retrouve exactement les mêmes études et logiciels. Alors ce qu'on appelle subvention d'équipement, c'est tout, vous savez qu'on vous a fait voter plusieurs fois, par exemple, les travaux du ciel, les travaux d'électrification qui sont faits par le ciel, et où on dit que le ciel participe et qu'on s'engage à rembourser le ciel sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est ça, c'est ces choses-là qu'on retrouve sur les subventions d'équipement. Et on le finance, bien entendu, encore une fois, par l'emprunt, malheureusement. Hein, bon, même si on a diminué l'emprunt à 450 000 euros. Et on a été très prudent, là, encore une fois, sur les dotations et sur les taxes d'aménagement, parce que là, sur la taxe d'aménagement, c'est vrai qu'on n'a aucune visibilité et qu'il vaut mieux pas partir sur la même somme que l'année dernière, parce qu'on n'est absolument pas sûr de la toucher. Et l'amortissement des immobilisations, ça, c'est une opération d'ordre, mais qui était une recette, effectivement, d'investissement. Voilà, donc 1 817 000, qui est donc, là, vous avez le détail, hein, vous voyez effectivement que le remboursement d'emprunt est quand même la part la plus importante, et en recette, bien entendu, c'est l'emprunt qui est la part la plus importante. Alors, pourquoi on a décidé de pas forcément, sur le 1 675 000 euros d'excédent de fonctionnement qu'on a, bon, on enlève les 800 000, mais il nous reste quand même 800 000 euros pratiquement de CAF net. Parce que, bon, déjà, on a décidé d'être prudent sur nos investissements et on ne le fait pas dans le budget primitif parce que c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Il y a une règle de la comptabilité publique qui fait que lorsque vous basculez des sommes en investissement, elles ne peuvent pas remonter en fonctionnement. Une fois qu'elles sont en investissement, elles y restent. Donc, il est plus prudent de garder 600 000 euros en dépenses imprévues en fonctionnement parce que le jour où on en a besoin, on peut, je sais pas, avoir quelque chose d'urgent, un toit de bâtiment public qui s'effondre, enfin, quelque chose qui nous nécessite une grosse dépense. On peut faire ce qu'on appelle une décision modificative et prendre les sommes du fonctionnement pour les basculer en investissement si on en a besoin. Donc, il vaut mieux bâtir un budget en gardant l'excédent de fonctionnement, et vous le verrez quand on va voter l'affectation du résultat, en gardant l'excédent de fonctionnement, en se disant que si on en a besoin, rien ne nous empêchera de le basculer en investissement. Si on fait l'inverse et qu'on dit on bascule 400 000 euros et qu'on a, je ne sais pas, on a bien vu l'année dernière, on a eu 150 000 euros de dépenses supplémentaires sur les masques et tout ça, et on ne peut pas revenir en arrière et on risque d'être embêté sur le fonctionnement.
Vous voyez l'emprunt à 1 050 000 euros. Eh bien, c'est les 650 000 de 2020 qui seront encaissés qu'en 2021, plus les 400 000 qu'on va aller chercher au titre du budget 2021.
Oui, voilà. Effectivement, on n'emprunte pas 1 050 000 cette année. Hein, parce que autant au compte administratif, on prend ce qu'on a dépensé et ce qu'on a encaissé. Et ce qu'on appelle les restes à réaliser, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas, ce que je vous ai expliqué, les programmes qui durent sur plusieurs années, ce sont des restes à réaliser qu'on retrouve sur le budget l'année d'après et auxquels on rajoute des nouvelles sommes. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu le budget, mais sur l'investissement en budget, vous avez deux lignes, vous avez deux colonnes, vous avez le reste à réaliser, c'est-à-dire ce qui reste de l'année d'avant, plus les décisions nouvelles, et en fait, on vote, ce que vous votez, c'est le total des deux. Voilà. C'est pour ça qu'on se retrouve à 1 050 000. En emprunt et on n'emprunte pas 1 050 000 pour 2021. Mais on a les 650 000 de l'année dernière qu'on a touché début janvier. Voilà. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé de ne pas être trop longue. Non ? C'est bon ?
Avant de passer aux propositions donc de vote, Donc vous avez reçu un certain nombre de documents. Alors les premiers qui sont libellés Elios au titre de 2020, ce sont les résultats qui nous sont transmis par donc Monsieur Martial Gauthier, qui est le receveur des impôts. Ça veut dire que c'est le principe de la comptabilité publique. Nous, on gère des dépenses sans les payer, ou on gère des recettes sans les encaisser, et c'est le trésor public qui, lui, procède à l'encaissement ou au paiement. Et donc, il doit y avoir une exactitude complète, d'un point de vue comptable, entre les deux comptabilités. Donc, les chiffres, les premiers chiffres que vous avez eus, sous libellé, donc, résultats budgétaires de l'exercice, etc., c'est ceux qui émanent du trésor. Comment ? Donc, on va passer en revue un certain nombre de petites choses avant. Hein, si je permets. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous signaler ? C'est des petites choses qui me semblaient, moi, importantes. Vous allez avoir donc le détail hein, de tous les des chiffres qu'on vient de vous présenter, puisqu'on a quand même 146 pages. Vous avez sur la page 4 du premier document des indicateurs. On retrouve les dépenses de fonctionnement avec les moyennes de la strate, ce que vous a présenté tout à l'heure Michel. Vous avez des tableaux qui croisent beaucoup d'informations. On trouve même des ébauches de comptabilité analytique par service, par groupe de services, mais ça ne va pas au bout de la logique parce qu'il y a un certain nombre de dépenses qu'on ne peut pas forcément ventiler. Alors c'est intéressant en soi, mais ce n'est pas non plus exhaustif, mais ça fait partie des éléments qui sont intéressants. Et puis moi, ce que je voulais aller, c'est tout à la fin. Où on a un certain nombre d'informations plus, je dirais, transversales. Bon, vous avez par exemple l'ensemble des cumulés des emprunts pour 12 380 000. Vous avez l'encours de la dette de capital restendu au 31 décembre pour 6 025 000, avec la ventilation entre le capital restendu 837 000 et 137 000 de charges d'intérêt au titre de l'année. Vous avez bon, tous les modes de calcul et les durées d'amortissement en fonction des biens. Vous avez également, je crois, quelque part, les subventions qui ont été versées. Alors, je vous les cite comme ça en passant en revue. Je ne vous donne pas forcément les pages, mais je pense que si vous avez compulsé les documents, vous êtes tombé dessus. Vous avez tous les garanties d'emprunt vis-à-vis des bailleurs sociaux. Bon, je ne retrouve pas exactement, mais on a aussi un tableau avec les effectifs théoriques et réels. Donc voilà un petit peu les éléments qu'on a mis à votre disposition.
On va donc égrener les différentes délibérations qui vont effectivement approuver les chiffres que je vous ai présentés, hein, c'est-à-dire le compte administratif, tout ce qui concerne le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021. Donc on a au départ le compte de gestion. Donc effectivement, ce que vous a expliqué Monsieur le maire, le compte de gestion, c'est le compte qui est tenu par le percepteur. Et effectivement, il faut que le compte administratif et le compte de gestion soient bien entendu exactement identique. Il faut qu'on ait les mêmes sommes. Et on voit bien dans les pages qu'on voit après, par exemple, si vous regardez cette page-là de délibération, vous voyez bien qu'on retrouve exactement les chiffres que je vous ai donnés. C'est-à-dire que en 2019, on avait 469 000 de déficit d'investissement, que en 2020, on a 503 000 d'excédent. Donc, effectivement, on se retrouve à la fin avec un excédent de 34 000, hein, si vous enlevez l'excédent, le déficit à l'excédent, qu'en fonctionnement, en 2019, on avait 1 368 243,34 d'excédent, qu'on a basculé 206 061 pour financer l'investissement, ce qu'on appelle l'autofinancement, et que donc le résultat pur de notre exercice que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas 200 000, mais c'est 512 474, l'excédent de l'exercice 2020, hein, si on enlève, si on fait la différence entre les dépenses et les recettes. Et donc, si on cumule ces sommes-là, on se retrouve bien avec l'excédent qu'on a d'1 674 656,65. Donc, on voit bien que notre compte de gestion, il est exactement égal à celui du percepteur. Donc, il faut voter, approuver le compte de gestion. Et il y a un deuxième compte de gestion parce qu'en fait, il y a un petit budget dont je ne vous ai pas parlé, qui est le budget des pompes funèbres. Alors, vous avez eu le document. On ne le détaille pas parce que ce sont des sommes qui sont vraiment très, très petites. Hein. Ça ne va pas chercher sur des sommes très importantes. Et en plus, il y a beaucoup d'opérations d'ordre sur les opérations de pompes funèbres. Donc, ce sont des sommes qui portent vraiment sur... on verra sur le budget, mais c'est vraiment peu important. Et on voit que le compte administratif, vous voyez, on a des différences de 0,01 centimes et 54,82 euros. Donc, en fait, il y a un système de compte. Et on a des caveaux, on construit des caveaux supplémentaires. Donc, ça, c'est une dépense d'investissement. Et on les vend aux personnes qui achètent des concessions, et on a calculé le prix de revient du caveau. Donc, normalement, effectivement, à quelques centimes près, on doit, une fois qu'on a construit des caveaux et on les a vendus, on doit se retrouver aux mêmes sommes. On peut avoir un décalage parce qu'il peut y avoir des caveaux qui n'ont pas été vendus sur l'année, sur l'exercice. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne détaille pas, parce que ce ne sont pas des sommes très importantes. Donc, on va vous demander déjà, dans un premier temps, d'approuver le compte de gestion. Pas pour le compte de gestion. Sur le compte administratif, tu sors. Sur le compte de gestion, donc, de la commune et du service des pompes funèbres. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc là, effectivement, je vais demander à monsieur le maire de sortir. Je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur le maire ne vote pas le compte administratif pour la simple et bonne raison, c'est que c'est l'approbation de sa gestion à lui. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les décisions budgétaires ont été prises sous la responsabilité de monsieur le maire. C'est lui qui signe les mandats, c'est lui qui décide les emprunts, c'est lui qui signe les contrats d'emprunt. Donc il ne peut pas être jugé parti, c'est-à-dire qu'il ne peut pas voter sa propre gestion, il ne peut pas approuver sa propre gestion. Voilà, c'est pour ça qu'on demande à monsieur le maire de sortir lors du vote du compte administratif. Donc, la délibération reprend les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure. Hein. Pour la commune, donc on a 8 244 000 de section de fonctionnement en dépenses, 9 918 000, je vous passe les centimes, de toute façon, vous avez les chiffres derrière moi. Donc, un excédent de clôture d'1 674 656,65. Donc là, on a bien repris les excédents cumulés. En section d'investissement, on a 1 919 988 de dépenses pour 1 954 151 de recettes. Donc un excédent de clôture 34 162,73 et un solde de reste à réaliser, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce que les restes à réaliser, ça marche en dépenses, mais ça marche en recettes aussi, parce qu'on a des subventions qu'on a demandées, qu'on n'a pas forcément touché sur l'exercice. Donc, on a des restes à réaliser sur les dépenses et des recettes. Et là, si on fait la différence, on a un solde positif. C'est-à-dire qu'on a plus d'argent à toucher que à dépenser. Et donc, on a un excédent de financement. Si on rajoute ces deux sommes-là, les 34 000 et les 395 000, de 429 410,24 euros. Donc, hors la présence de M. Servant, donc maire, je demande au conseil municipal de bien pouvoir approuver le compte administratif 2020 pour la commune. Et là, on est obligé de voter par section. C'est-à-dire qu'on va d'abord voter la section de fonctionnement, puis la section d'investissement. Donc, est-ce que pour les chiffres de la section de fonctionnement du compte administratif 2020, il y a des oppositions? Il y a des voix contre? Qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Oui, abstention. Pardon. Sur la section d'investissement, donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et voilà. Donc, après, on a le service des... Donc, je vous remercie pour le compte administratif, donc qui est approuvé. Pour le service des pompes funèbres, donc, vous voyez que la section d'exploitation, les dépenses s'élèvent à 26 970,45 euros et les recettes à 27 405,02 euros. Donc, on a un petit excédent. Je vous expliquais certainement un décalage entre une construction et une vente. Donc, un excédent de clôture de 434,57 euros. Et pour la section d'investissement, on a 25 704,94 de dépenses pour 28 041,76 de recettes, donc un excédent de clôture de 2 336,82 €. Donc, hors de la présence de M. Servan-Maire, je vous demande d'approuver le compte administratif 2020 pour le service des pompes funèbres. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Qui est pour? Donc, c'est alors, la section de fonctionnement, déjà, pardon. Donc, pour la section de fonctionnement. Pour la section d'investissement, est-ce qu'il y a des abstentions? Qui est pour? Donc, le compte administratif, section d'investissement des pompes funèbres est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va faire revenir Monsieur le maire. Non, mais il y a des communes où le compte administratif n'est pas approuvé et ça pose quand même un certain souci. Ça veut dire qu'il peut y avoir une opposition au sein du Conseil. Donc là, ça a tout été adopté à l'unanimité. Oui.
Si on est réaliste dans votre budget de fonctionnement, à fin 2021, on devrait ressortir avec un excédent de l'ordre de 300 à 500 000 encore pour rajouter à l'excédent brut, non? Si on voit avec toutes les prudences qu'on a prises, il doit y avoir 500 000 qui devraient venir alimenter l'excédent brut en plus.
Normalement,
on devrait passer à 2 millions et quelques.
Si toutes nos recettes, qui sont un peu précaires, comme les taxes d'aménagement, la taxe additionnelle, le droit de mutation. Vous savez qu'on touche aussi de l'argent sur les ventes, par exemple. Mais ça, il y a des années, beaucoup de ventes, où il y a des grosses ventes, et du coup, on touche beaucoup de taxes additionnelles, et puis il y a des années où il n'y en a pas. Mais on ose espérer qu'on ait au moins un excédent de 300 à 400 000, ça serait déjà...
On va passer à 2 millions d'excédents bruts l'année prochaine.
On croise les doigts et on l'espère.
Au 31 mars, on va dire que, par exemple, sur les premiers droits de mutation qu'on voit arriver, c'est plutôt dans le bon sens. Même si notre responsable comptable, elle ne met en budget, en recette, que ce dont elle est certaine de voir arriver. Donc là, il y a une petite marge de manœuvre. Et puis, il y a ces 600 000 euros de dépenses imprévues qu'on ne touchera peut-être pas. Alors, c'est vrai que on va continuer à maîtriser nos dépenses. Par contre, vous l'avez vu, la section du personnel, c'est le plus gros poste. Un exemple tout bête, on a un policier qui va partir en retraite vraisemblablement au 31 décembre. On envisage un recrutement dès le mois d'octobre pour le remplacer avec 3 mois de cohabitation pour qu'il ait le temps de se former. Ça veut dire qu'on va avoir surcoût salarial sur 3 mois. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Donc il faut qu'on soit en capacité d'aller les récupérer ailleurs. Mais effectivement, si on n'a pas de surprise, alors bon, par exemple, les coûts Covid, on sait que maintenant ils sont actés dans nos dépenses courantes, c'est un peu environ 100 000 euros qu'on a su absorber. On va parler tout de suite après de l'augmentation de la taxe foncière. Donc ce qu'on dépense un petit peu plus d'un côté, on essaye de le compenser par un petit peu plus de recettes. Et effectivement, Pierre, tu as raison, si on est dans cette tendance-là, je parle bien de tendance, on devrait atteindre les 2 millions d'excédents de fonctionnement si tout va bien à la fin de l'année.
Là, vous n'avez pas prévu, par exemple, vous dites qu'on dépense trop. Vous n'avez pas prévu de nouvelles impôts ou de participation aux services, etc. Dans le budget, vous dites qu'on reste tout égal par rapport à ce qu'on a voté en 2020. Vous pas de proposition
alors,
pour 2021.
Dans les prévisions, oui, on reste sur les sommes, mais bien entendu, on a depuis plusieurs années une politique d'équité entre le contribuable et les usagers. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas normal de passer, par exemple, d'augmenter que les impôts, parce que malheureusement, il y a une grande partie de la population qui bénéficie d'aucun service, ou d'un service sur 5 ou 6 qui sont proposés. Donc effectivement, et ça fait plusieurs années qu'on a cette optique-là, on augmente régulièrement les tarifs des usagers. Mais on ne le met pas forcément en prévision, parce qu'on n'est pas sûr de le voter, on n'est pas sûr du montant, et ça fait toujours des plus, en fait. Voilà. Mais bien entendu, cette politique d'augmentation des tarifs, et je pense particulièrement à la cantine, je pense qu'au 1er janvier, au 1er septembre, on augmentera bien entendu certainement les tarifs de la cantine ou des choses comme ça. Et ça, on le fait assez régulièrement dans un souci d'équité.
Oui, donc c'est ce que dit Michel. On va vous présenter juste après un relèvement de la taxe foncière. Avec l'impact budgétaire, on l'a déjà intégré. Donc voilà, et puis par contre, tout ce qu'on va augmenter au fil de l'eau dans les services, bon, comme on ne sait pas exactement au mois de septembre de combien on va augmenter la cantine ou le pôle enfant jeunesse ou des choses comme ça, on ne l'intègre pas. Ça fait partie des, je dirais, des petites marges de manœuvre qu'on peut s'octroyer, mais la logique, c'est effectivement de stabiliser, voire de développer nos recettes au regard de ce qu'on a pu perdre.
Donc après, on vous propose une autre délibération qui est l'affectation du résultat 2020. Alors en fait, voilà, pourquoi ? Ben, il y a une logique hein, là-dedans. On vient de constater nos excédents, enfin cette année des excédents, mais on aurait pu constater des déficits en investissement. Et après, ben, qu'est-ce qu'on fait de ces sommes ? Il faut bien qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'on les affecte à quelque chose. Donc effectivement, la délibération vous dit qu'après avoir prouvé le compte administratif 2020 qui présente l'excédent de fonctionnement de 1 674 656,65, vous allez le connaître par cœur ce chiffre-là, vous allez voir dans un petit moment, constatant que la section d'investissement du même compte administratif fait apparaître également un solde positif de 34 162,73, constatant que le solde des restes à réaliser, ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'on a plus de dépenses à prévoir sur 2020, qui nous reste en attente de 2020 que de dépenses, et cet excédent se porte à 395 247,51. Donc on a un solde d'exécution global, si on rajoute ces deux chiffres, qui s'élève à 429 410,24 €. Et il convient d'affecter l'excédent. Alors il y a une seule chose qu'on affecte, c'est l'excédent de fonctionnement. C'est-à-dire que lorsqu'on a un excédent, déjà il y a une première règle qu'on n'applique pas là cette année. Mais si on avait un déficit d'investissement, on serait obligé par les règles de comptabilité communale. Par exemple, mettons qu'on ait un déficit de 50 000 € en investissement, on serait obligé de basculer au moins 50 000 € de notre excédent de fonctionnement sur la section d'investissement pour combler le déficit. Ça, c'est une règle obligatoire. Cette année, on n'a pas à le faire puisqu'on n'a pas de déficit. Voilà. Donc, en fait, cette année, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on décide de garder la totalité de notre excédent de fonctionnement en fonctionnement, c'est-à-dire notre 1 674 656,65 € pour l'instant, et de garder l'excédent d'investissement de 34 162,73 € en investissement. Et là, de toute façon, même si on avait un budget de 800 000 € d'excédent d'investissement, on ne pourrait pas le basculer en fonctionnement. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui reste en investissement reste en investissement. Ça ne part jamais dans l'autre sens. Voilà. Donc, cette année, pour l'instant, sur le budget primitif, on décide de garder nos excédents. Et ce que je vous ai expliqué plus tard, si on a besoin après pour ce qu'on a fait l'année dernière de 200 000 €, on l'a fait par décision modificative. C'est-à-dire qu'on décide que sur les 1,6 million, on prend 200, 300, 400 pour le basculer en investissement. Mais ça, on peut le faire plus tard parce que je vous ai dit, c'est une prudence. Ça nous permet d'être sûr d'avoir notre argent en fonctionnement et de le mettre en investissement que lorsqu'on en a besoin. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération, sur l'affectation des résultats, des abstentions? Donc, j'imagine que tout le monde est pour. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité.
La petite question, on a 400 000 de restes à réaliser, on va investir 450 000. C'est comme si on investissait pour retraite. Puisqu'on récupère, on va faire
400 000, on a déjà 400 000 qui vont me solder. Non, on a investi 1 196 000.
Les 650 de l'année dernière, plus 450 de cette année, vous avez dit.
Ça, c'est le financement des investissements. Après, donc, dans les dépenses, on va bien au-delà des 400 000.
Oui.
Parce qu'en fait, dans les investissements, n'oubliez pas qu'il y a l'amortissement. Il y a déjà 800 000 € d'amortissement. Donc, je veux dire, on a beaucoup plus...
De remboursement de capital.
D'amortissement, l'annuité. Quoi.
Oui. Et oui, parce que l'annuité, le capital de la dette est en investissement. Ce qui est un peu logique, puisque effectivement, c'est ce qui nous permet effectivement d'améliorer notre patrimoine. Donc, c'est normal que le capital soit en investissement. Et les intérêts en fonctionnement. Mais Donc, je te laisse.
Donc, le point suivant concerne le vote des taux d'imposition des taxes directes locales. Donc, à ce jour, la taxe d'habitation a disparu au bénéfice de 80% des contribuables. Pour les 20% restants, déterminés en fonction d'un niveau de ressources, la suppression de cet impôt s'effectuera en 3 années jusqu'en 2023, réduction de 30% en 2021, 65% en 2022 et la totalité en 2023. Pour compenser la perte financière liée à la suppression de la taxe d'habitation, les communes se voient transférer en 2021 le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue en 2020 par le département. sur leur territoire affectés d'un coefficient correcteur pardon, pour garantir le montant correspondant au produit des bases, taxe d'habitation 2020 par le taux voté en 2017. Donc, on perd une recette, la taxe d'habitation. L'État demande en fait que nous soit affectée la taxe foncière qui était perçue par les départements, alors avec un coefficient correcteur, puisqu'on prend une base 2020 avec des taux correcteurs pour qu'on n'ait pas plus, mais surtout pour qu'on n'ait pas moins. Pour la Loire, chaque commune doit ainsi ajouter à son propre taux de taxe foncière sur les propriétés bâties celui du département qui est de 15,30. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, mais on voit des délibérations de conseil où on a le vote de la taxe communale. À cette taxe vient s'ajouter la taxe départementale pour ne plus faire qu'un seul taux de taxe foncière. Et je pense que sur les rôles, il n'y aura plus la distinction entre la taxe communale et départementale. Il y aura une seule taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour 2021, je vous propose donc d'établir les taux d'imposition comme suit. On avait déjà évoqué on avait relevé déjà notre taxe foncière à 22,50 en juin. On en a déjà parlé. On vous propose donc de l'augmenter de 1,5% pour passer à 22,84. Et donc, à ces 22,84, on ajoute les 15,30 du taux départemental pour arriver à une taxe foncière bâtie globale de 38,14. La taxe foncière non bâtie reste à 88,11. Le produit fiscal estimé pour 2021 et inscrit sur le budget primitif est donc globalement de 3 700 000 euros. Je vous demande donc de bien vouloir approuver les taux ci-dessus. Donc, d'une part, une augmentation de 1,5 de l'ancienne part communale et la jonction effectivement de la partie départementale. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ?
Donc, maintenant, on va voter donc le budget primitif 2021, donc pour la commune et pour le service des pompes funèbres. Donc, on vous rappelle qu'on a fait le débat d'orientation budgétaire, comme c'est la loi, le 1er février 2021. On a réuni la commission des finances le 9 mars 2021 et on vous a donc présenté aujourd'hui le projet de budget primitif. Donc, on vous demande de vous prononcer, le conseil municipal, sur le budget primitif 2021, donc qui est arrêté comme suit. Donc, pour la commune, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les dépenses et les recettes de fonctionnement s'équilibrent à la somme de 9 698 020,65 €. Et pour les dépenses et les recettes d'investissement, à 1 817 015,26 €. Pour le service des pompes funèbres, là aussi, on n'est pas dans les mêmes budgets. Dépenses et recettes d'exploitation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'investissement, mais dans ce budget-là, ça s'appelle l'exploitation, de 24 813,31 €. Et pour les dépenses et recettes d'investissement, 25 704,95 €. Alors déjà, je vais vous demander de voter pour les dépenses et les recettes de fonctionnement du budget communal. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté à l'unanimité. Pour les dépenses et recettes d'investissement, qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Je vous remercie. Donc, le budget primitif de la commune est adopté à l'unanimité. Pour le service des pompes funèbres, pour les dépenses et recettes d'exploitation, qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté à l'unanimité. Et pour les dépenses et recettes d'investissement, qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté à l'unanimité. Donc, le budget primitif 2021 est adopté à l'unanimité. Donc, derrière, après, vous avez une note synthétique qui vous a été fourni en même temps que les éléments du conseil municipal. On le fait depuis 2 ans maintenant, puisque ça a été une des préconisations de la Cour des comptes qui nous reprochait de ne pas apporter cette note lors du vote du budget. Donc je ne la commenterai pas, hein, parce que ça reprend exactement les chiffres que vous aviez, mais ça vous permet d'avoir une vision un peu synthétique de la situation financière, et c'est peut-être un petit peu plus facile à lire que le pavé du budget primitif ou du compte administratif. Voilà.
En particulier, page 10, où vous avez nos indicateurs de gestion, communes de la SPAT, qui sont des des paramètres que nos partenaires financiers regardent avec beaucoup d'intérêt. On va passer la parole maintenant à Christine Gezins pour la demande de subvention de la régie de gestion du NEC pour 2021. Vous avez eu en séance, sur table, deux petits documents de synthèse qui vous présentent un petit peu la situation du NEC.
Bonsoir. Afin de mieux appréhender l'enjeu de la demande de la subvention du NEC auprès de la mairie de Saint-Prié, il vous est communiqué les éléments d'activité. Je recommence. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Bonsoir. Afin de mieux appréhender l'enjeu de la demande de subvention du NEC auprès de la mairie de Saint-Prié, il vous est communiqué les éléments d'activité suivants. Au titre de la saison 2020-2021, le NEC a recueilli 638 abonnements. En 2019, nous en avions 986. Et bien sûr, ça fait une baisse de 35%, mais ça, ceci est dû, les gens ne se sont pas réabonnés tout de suite à la rentrée. L'origine géographique des abonnés reste la même d'une année sur l'autre. 40% de Saint-Prié, 18% de Saint-Étienne et 14% de Villars. Ce qui fait qu'à peu près 72% des abonnés sont donc originaires de la commune de Saint-Étienne et de Villars. Sur la saison 2020-2021, le NEC aurait dû proposer 19 spectacles tout public, 5 spectacles jeunes publics, 3 grands reportages et 7 spectacles du Festival du théâtre amateur. Alors, la saison a commencé au mois de septembre par les 4 spectacles reportés de la saison précédente. En octobre, 4 spectacles ont été présentés, les 2 lauréats du Festival de théâtre amateur et les 2 spectacles de la saison. Il y avait un grand reportage aussi. Et depuis le 30 octobre, le NEC est à nouveau fermé pour cause de pandémie. De ce fait, aucune représentation n'a pu avoir lieu. À ce jour, 13 spectacles ont été annulés et tous ont été remboursés aux abonnés qui le demandaient. 2 spectacles sont en attente des directives gouvernementales. Les spectacles prévus sont le 30 avril et le 7 mai, donc on ne sait pas encore, mais bon. Je vis dans l'espoir, mais bon, j'y crois pas trop. Les résultats financiers, donc en 2020, la recette de billetterie était de 56 879 euros. Mais après les remboursements des billets, elle ne s'élève plus qu'à 31 965 euros. La subvention municipale représente 69% des recettes d'exploitation. En dépenses, l'achat des spectacles atteint 54% des charges d'exploitation. La location de matériel technique pour les spectacles se positionne à 3% et les droits de production, dont la SACD, 7%. En 2020, le résultat d'exploitation est excédentaire de 24 348 euros. Ceci est dû à l'annulation des spectacles, parce que normalement, on n'aurait jamais dû faire un bénéfice comme ça. Quant aux excédents cumulés, après affectation du résultat 2020, ils s'établissent à 110 674 euros. Pour conclure, je dirais que l'année 2020 a été difficile à gérer et les chiffres ne sont absolument pas représentatifs d'une saison sans Covid.
Avez-vous des questions? Donc l'an dernier, on avait accordé 100 000 euros de subvention au NEC et puis on avait demandé à la direction du NEC de faire un effort annuel de réduction de 5 000 euros. On partait du principe que 5 000 euros, c'était une baisse de subvention raisonnable, puisqu'en gros, le NEC, en année normale, a une billetterie d'environ 5 000 places payantes. Donc ce qu'on avait dit à la direction du NEC, c'est de dire... Vous réduisez votre subvention dans le cadre de la maîtrise de nos coûts et de nos dépenses. Il suffira que pour compenser, vous augmentiez d'un euro le prix de la place. Donc c'est un petit peu cette mécanique-là qui avait été retenue. Bon, le Covid est passé par là, mais le NEC a accepté de jouer le jeu en réduisant de 5 000 euros la demande de subvention. Après, on l'évoquera à d'autres occasions, mais bon, là aussi, vous verrez que dans la maîtrise de nos dépenses, le poste subvention est un poste sur lequel on est très attentif. Et on vous proposera là aussi des diminutions sensibles, mais en phase et en intégrant la réalité de chaque association. Donc on vous propose de voter une subvention pour le NEC pour l'année 2021 de 95 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bien, merci pour le NEC. Oui.
Oui, bonsoir. J'ai une question. Oui, les excédents de 100 000 euros du NEC, est-ce qu'ils nous exonèrent de subventions sur 2021 ou s'ils sont déjà pris en compte dans la comptabilité courante de la mairie? Parce qu'ils s'additionnent.
Le NEC, c'est une gestion totalement à part. C'est une régie. Donc, elle a son compte de résultat, son compte d'exploitation, ses résultats. Donc, cet excédent, c'est un petit peu comme nous, notre capacité d'autofinancement. C'est une réserve pour les années à venir. Donc, c'est compte tenu de l'état de cette réserve depuis plusieurs années qu'on avait demandé au NEC de faire un effort de réduction de la demande de subvention. Nous, le résultat du NEC, il n'entre absolument pas dans les comptes de la collectivité. C'est une gestion totalement à part. On est partenaire, on va dire, du NEC en lui attribuant une subvention. Et l'idée, c'est que on réduit, alors soit après, dans sa stratégie, le NEC perd 1 euro de la place, donc le répercute, ou dit, ben, par exemple, pendant 1 ou 2 ans, on va absorber cette réduction de la subvention en couvrant par nos excédents. Là, cette année, en définitive, heureusement qu'il y a l'excédent, parce que on ne sait pas du tout ce que va donner la saison. Donc, il n'y a pas de rentrée, on rembourse. Donc, on espère quand même qu'en septembre, on va pouvoir redémarrer, mais on sera sur une activité réduite de moitié. Donc, on peut s'attendre peut-être à ce qu'à la fin de l'année, cet excédent soit divisé par 2, par exemple. On va voir du tout comment ça va fournir, parce que avec les, vous avez vu la répartition quand même des dépenses, il y a des charges fixes qui sont importantes, en particulier les frais de personnel. Parce que ce ne sont pas des salariés d'une entreprise privée, ce sont des fonctionnaires. Donc, même qu'ils travaillent ou pas, ils sont payés.
L'excédent va payer les... En fait.
C'est-à-dire que l'année 2021 qui va être réduite en termes de recettes, avec des coûts fixes qui seront quand même moindres, parce qu'il n'y aura pas les frais de les droits d'auteur, etc., mais il y aura quand même les coûts fixes, en définitive, vraisemblablement, enfin, sauf si la situation s'améliore, mais le résultat 2021 sera sans doute déficitaire, et à ce moment-là, ce déficit s'imputera sur l'excédent actuel.
Excusez-moi. Voilà, je voulais savoir, j'avais deux questions. Pour les spectacles, quand la régie du NEC prend un spectacle, enfin, va dire, je vais présenter tel spectacle au NEC, est-ce qu'elle a des assurances pour annulation ou il n'y a pas d'assurance? Non.
Alors, quand on a signé les derniers contrats qui avaient été signés, ils nous précisaient justement si on. Certains contrats, je ne les ai pas signés parce que. Du fait du Covid, ils voulaient qu'on s'engage quand même à les payer. Donc là, ce n'était pas possible. Mais ce n'est pas de notre faute et ce n'est pas de leur faute non plus. Donc les contrats qui ont été signés, tous les spectacles sont reportés sur la saison suivante. D'accord. Parfois, on a versé un acompte, pas tout le temps, mais ça arrive que des acomptes ont été demandés. Donc on reporte le spectacle la saison suivante.
D'accord. Ensuite, j'avais une autre question complètement à part. Vous dites que le NEC est une gestion donc bien précise, leur gestion à eux. Par contre, quand les dalles du plafond s'écroulent, c'est la mairie qui les règle. Comment ça se fait?
C'est un bâtiment municipal.
C'est un bâtiment municipal, donc, ok.
Vous avez un excédent de 100 000, on paye l'investissement et on redonne 95 000. C'est là où je suis perdu un peu dans le temps aussi. Je suis d'accord avec vous, je ne comprends pas bien.
Alors, c'est un petit peu le fonctionnement en fait, des collectivités. Le NEC a sa gestion indépendante. C'est pour ça qu'on dit que c'est une régie, au même titre qu'on a d'autres régies à part. Par contre, tous les bâtiments, tous les investissements sont municipaux. Le NEC offre un service municipal. Au même titre que, par exemple, un autre bâtiment, si la crèche était indépendante et qu'il y ait des travaux à faire, c'est la mairie qui le ferait. Voilà, on finance le NEC sous forme d'une subvention dans le cadre de sa gestion, de fonctionnement. pour tout ce qui est investissement, ce n'est pas de la compétence du NEC. C'est la compétence de la mairie, puisque ce sont des bâtiments municipaux. Voilà. Ou alors, il faudrait monter carrément un système, mais ça ne serait plus une régie, ça serait une société d'économie mixte, avec une rétrocession des bâtiments, le NEC devrait emprunter de l'argent, etc. Ce n'est pas du tout la logique de fonctionnement de la collectivité, en fait. Voilà.
Mais dans une année normale, sans Covid, le NEC est équilibré ou pas ? Déficitaire tout le temps ?
En 2019, on était en négatif de moins 138 euros. C'est vrai que c'est pas énorme, mais non, à peu près équilibré, quoi. Avec la subvention qui était plus élevée, hein, qui était de 103 500. Et en plus, la difficulté, une saison culturelle, c'est sur deux années, c'est toujours compliqué, alors que le budget, il est sur l'année.
D'autres questions sur la gestion du NEC ?
Est-ce que tu peux nous dire, Christine, d'avoir une vision générale du NEC en termes de fonctionnement général, si on additionne le personnel fixe mairie, les frais de fonctionnement, la gestion, etc. Moi, j'ai toujours eu du mal, je ne parle du tout, remettre en question quoi que ce soit, parce que je suis... partisan du NEC, mais j'ai toujours eu du mal à me dire le NEC, il coûte 400 000 euros par an, 500 000 euros par an. Qu'est-ce qui coûte le NEC? C'était parce que c'est bien de le savoir, quoi, sans pour autant le remettre
en
question.
Il faut demander ça à Béatrice Bayard, ce que ça coûte, parce qu'il y a du personnel qui est municipal aussi. Donc.
Si on devait, municipaliser, on va dire, c'est pas le mot, le NEC, c'est-à-dire le traiter comme un service normal, je crois que globalement, on serait autour de 200-250 000 euros, globalement. Oui, parce qu'en fait, les charges de personnel, elles ne sont pas là, prises en charge dans le budget qu'on vous présente. Bon. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais c'est, je dirais presque que c'est la logique de toutes les structures qui sont publiques, en définitive. Bien sûr, mais absolument. Absolument. Et en même titre que là-bas, comme on l'évoquait tout à l'heure, le NEC n'a pas à prendre en charge, par exemple, les 50-60 000 euros qu'on va mettre dans le remplacement des dalles du plafond. Et heureusement. Ou sinon, on ne serait plus à 15 ou 20 euros de la place, mais à 60-70 euros de la place. C'est la mixité entre un service public qu'on assume avec un mode de fonctionnement en régie. On a d'autres régies. On a la régie du Pôle Enfant Jeunesse, on a la régie cantine, etc. Mais voilà, c'est effectivement... Les comptes du NEC qui vont. Alors, pourquoi on vous le présente comme ça? Parce que ça a été une demande de la Chambre générale des comptes. Avant, on présentait ça comme une subvention comme pour les autres. C'est de dire, voilà, l'activité, le fonctionnement du NEC sur une année, qu'est-ce que ça donne et comment ça se passe? Donc, ça, c'est nouveau depuis deux ans, hein, l'an dernier et cette année. Mais, in fine, effectivement, le coût global, il est noyé dans les coûts de la mairie. Et vous savez que chaque année, au mois de juin, j'essaye de vous sortir un état des restes à charge municipaux. Par grands services, entre la petite enfance, la jeunesse, la culture, etc. Et on vous ressort les restes à charge de la mairie, c'est-à-dire entre les dépenses globales moins les recettes qu'on peut en tirer. Et c'est vrai que la culture n'est pas forcément le secteur qui nous coûte le plus cher. Je crois que le secteur qui nous coûte le plus cher, c'est la petite enfance, il me semble, de mémoire. Hein. Mais on aura les chiffres, là, au mois de juin, actualisés.
Il y a une grosse difficulté, c'est de savoir combien on va avoir d'abonnés à la rentrée. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Donc, pour faire un budget, c'est compliqué. C'est ce que je vous disais, que ça avait baissé déjà par rapport à l'an passé. Et au mois de septembre, qui va venir s'abonner? Mais j'ai aucune idée. En revanche, moi, on va signer des contrats pour les spectacles. Et après, est-ce qu'on n'aura que des demi-jauges? Pareil, je ne sais pas du tout ce qui nous attend à la rentrée.
Alors, le NEC, vous l'avez compris, n'est pas totalement autonome au niveau financier, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais par exemple, il a intégré un effort en termes de gestion des ressources humaines, puisqu'on fait en définitive, il y a eu un demi-poste de rendu avec le départ de l'ancienne directrice. Puisqu'on avait deux agents et demi, et puis on n'a plus que deux maintenant au niveau administratif. pas. Donc, on va s'interroger également sur le départ prochain de la personne qui s'occupe de tout ce qui l'entretient. On va voir si on ne peut pas passer d'un équivalent temps plein à un 0,60 ou quelque chose comme ça. Donc, le NEC est totalement intégré dans l'ensemble des réflexions que nous avons sur le mode de fonctionnement des services et sur l'optimisation des coûts. Donc ensuite, le point suivant, toujours très attendu, c'est l'état des décisions du maire. Vous avez donc un état avec le détail des décisions 6 à 17. Donc ce sont des décisions d'engagement de dépenses que j'ai signées sous votre délégation. Je citerai simplement la troisième décision, contrat d'insertion d'espace publicitaire sur un véhicule utilisé par les services de la commune de Saint-Priest-en-Jarret avec Infocom France pour une durée de 2 ans. En fait, je vous avais expliqué, on a changé de prestataire qui nous fournit des véhicules autofinancés par la publicité. Donc on en avait un avant, un beeper, je crois, enfin peu importe le véhicule. Et là, on est en cours de l'acquisition de 2 véhicules électriques. Le premier a été livré, on l'a maintenant depuis 2 semaines, et on en attend un second. Sauf que sur ce second, il restait un espace publicitaire non loué. Donc on avait soit la décision de dire, ben on le prend à notre charge, c'est-à-dire qu'il y aura une pub pour Saint-Priest-en-Jarret-Ville, et ça nous coûte donc 600 euros TTC par an, et on a un deuxième véhicule. Ou alors on ne le prend pas et on n'a pas de deuxième véhicule. Donc le choix de décision de gestion a été rapide. On a dit oui, on va dépenser 600 euros de pub pour avoir un deuxième véhicule électrique. Donc voilà, c'est cette dépense-là. Et puis sur la toute dernière, c'est le contrat de location d'un emplacement publicitaire avec la société Horizon. Vous savez, on en avait débattu à plusieurs reprises. Donc c'est l'autorisation d'installer un panneau publicitaire sur la rue Pierre-Mendès-France après le Roi Merlin, juste avant l'entrée de la Stas. Et donc là, ce panneau, comme on vous l'avait déjà présenté, nous rapportera 960 euros TTC par an. Des questions par rapport à ces décisions ? C'est-à-dire ? Non, non, mais la première, on paye rien et on l'a. Ah non, non, ce sont des véhicules qui sont financés par la pub. Alors le premier, c'était des contrats de 3 ans renouvelables. Donc on avait eu le minibus qu'on a acheté au bout de 6 ans. On a un pick-up. Et donc le troisième véhicule qui était un beeper arrivé en fin de contrat. Donc là, on est parti sur 2 véhicules utilitaires, électriques. Alors donc on va avoir une borne installée sur la petite place à côté. Et en définitive, on avait prévu qu'un véhicule cette année, on en a 2, ce qui nous permettra d'éviter là aussi d'en acheter un autre. La question suivante, c'est le bilan des acquisitions et des cessions immobilières de l'année 2020. Michel ?
Oui, donc Monsieur le maire expose que l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les conseils municipaux doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières, et ce, dans le but d'apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les collectivités territoriales. Donc, effectivement, on doit présenter au conseil municipal tous les ans quels sont les terrains qu'on a pu soit vendre, soit acheter sur l'année qui précède. Donc, sur 2020, on a simplement fait une acquisition. En fait, ce n'est même pas nous, c'est Epora. C'est dans le cadre, vous savez, de notre opération d'aménagement du centre-bourg où Epora a acquis, pour le compte de la commune, une petite maison qui est place Jean-Baptiste Père auprès pour une somme de 105 000 euros. Voilà. Et on n'a pas fait de cession sur 2020. On n'a fait aucune cession immobilière. Donc, voilà. Je ne sais même pas si ça doit se voter, ça, Frédéric. Non, ça ne se vote pas. C'est juste un bilan. C'est juste une information.
Le point suivant, c'est la convention avec la GAZEF et c'est Mireille qui va nous la présenter. Merci.
Bonsoir à tous. Donc, je vous rappelle qu'avec la GAZEF, on avait discuté entre nous du dispositif qui avait été mis en place et qui ne correspondait pas complètement à la ville de Saint-Priest-en-Jarret. Et donc, on souhaitait un autre dispositif qui elle était venue. Directrice de la GAZEF était venue nous le présenter. On souhaitait un autre dispositif. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils viennent faire des médiations directement selon des heures et des jours précis, nous, on les interpellait par saisine sur des soucis qui se dégageaient sur la commune. Donc, ça avait sujet, et moyennant le fait qu'on baisse notre participation financière à la moitié de ce qu'on donnait auparavant. Donc, il y avait eu des discussions d'engagés, puisque les autres communes avaient réagi. La Gazef avait semblé être un petit peu confuse et plus savoir trop sur quel pied danser. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Donc, ce soir, il y a une convention. On vous demande l'autorisation de signer la convention avec la Gazef. Je vous rappelle quelques éléments d'information. Donc, la commune travaille depuis 2010 avec la Gazef, Roche-la-Molière, Sorbier, Saint-Jean-Bonnefonds, sur un projet de médiation éducative et sociale. Dans ce projet qui s'adresse aux jeunes âgés de 12 à 25 ans qui manifestent des comportements incivils, les communes concernées veulent développer un dispositif permettant de repérer rapidement les situations de tension entre jeunes et habitants, restaurer du lien social entre les jeunes et les institutions et créer un maillage interpartenarial autour des questions de jeunesse et d'actes d'incivilité. Ce dispositif a été confié donc à la Gazef, Association de gestion de l'action sociale des ensembles familiaux. C'est une association loi 1901 qui intervient dans le domaine de la prévention et la protection de l'enfance, et notamment dans la prévention spécialisée auprès des jeunes de 15 à 25 ans en risque de marginalisation. Une convention a déjà été conclue lors du conseil municipal du 14 septembre 2020 entre le département de la Loire, la préfecture de la Loire, les communes de Saint-Priest-en-Jarret, Sorbier, Roche-la-Molière, Saint-Jean-Bonnefonds, La Talaudière et la Gazef. En accord avec la Gazef et compte tenu du nombre réduit d'interventions réalisées par les équipes de médiation, la commune souhaite renouveler ce dispositif pour une période de 2 ans et 6 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Le présent avenant fixe les montants des contributions des communes pour les années 2021-2022, soit pour Saint-Priest-en-Jarret 5 875 € pour 2021 et 5 950 € pour 2022. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cet avenant à la convention d'intervention médiation éducative et sociale et d'autoriser monsieur le maire à le signer.
Des questions par rapport à la Gazef? Donc, on vous avait un petit peu expliqué l'évolution depuis le mois de septembre. En fait, la convention est arrivée à son terme au 31 décembre 2019, pardon. Et Jean-Michel Pose avait dit, on ne va pas s'engager à nouveau pour 3 ans, on va attendre que le nouveau conseil statue. Et donc, en juin d'abord, et puis en septembre, on avait demandé à Mme Fauvet de venir présenter les rôles et missions de la Gazef. Et ce qu'on avait dit, c'est que budgétairement, et compte tenu de nos besoins, on ne pouvait pas rester sur un financement annuel de 12 000 €, qui était déjà la moitié de ce que payent les autres communes, puisqu'elles sont à 25 voire 26 000 euros, et qu'on souhaitait diviser le coût par deux, avec une autre approche de notre besoin, parce que la médiation éducative est là 2 heures le mardi après-midi et 2 heures le jeudi matin, ce n'était pas franchement la meilleure solution par rapport à nos besoins. Donc c'est de définir ensemble des axes d'action sur des thématiques auprès de certains publics, en partenariat donc avec la Gazef, mais aussi avec le CCAS et la police municipale. Donc, ça a été un petit peu dur de s'ajuster. Et puis, bon, on y est arrivé. Donc, on a divisé par deux le coût global annuel de notre subvention à la Gazef. D'autres questions par rapport à la Gazef? Donc, il nous reste maintenant, très rapidement, sous le, je dirais, l'égide de Mireille, de définir les pistes qu'on voudrait développer. On en avait déjà évoqué certaines, comme les problématiques d'addiction chez les jeunes, les problématiques également de violence. On en parlera peut-être tout à l'heure dans les questions diverses. Donc tout un ensemble de problématiques qui ne nous concernent pas directement sur notre territoire. Mais l'idée, c'était de dire peut-être que dans la classe de CM2, avant le collège, ça serait un temps intéressant que les médiatrices puissent intervenir. Voire même au collège, sur les problèmes d'addiction, il avait été envisagé de mener des actions au sein du lycée. Donc voilà, indirectement, ça touche quand même une partie de notre population. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on puisse les solliciter quand on détecte des situations locales très spécifiques pour qu'elles puissent intervenir. Le problème, c'est que souvent, quand on détecte ces situations, leur rôle est un petit peu, je dirais, minimisé. Très concrètement, c'est un peu tard. Mais voilà, donc le tout, c'est de rester attentif et mobilisé sur ces thématiques et puis de les solliciter quand on en a besoin. Donc voilà, bon, les choses sont maintenant réglées et on vous propose donc de voter cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour...
Excusez-moi, est-ce qu'on peut aérer un peu? Parce qu'avec le Covid, il faut aérer aussi un petit peu. Et puis là, on crève de chaud. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais...
Juste Frédéric, pour ouvrir les trucs d'en haut, là. Pour ouvrir le haut, les fenêtres du haut.
Donc maintenant, nous allons passer à la désignation d'élus pour remplacer André Chaise dans les différents comités et commissions. Suite au décès de Mme André Chaise, il est nécessaire de remplacer cette dernière dans la mission qui lui avait été confiée dans le cadre des différents comités et commissions. La première commission, c'est la commission d'appel d'offres. Alors théoriquement, pour élire les membres de la commission des appels d'offres, on vote à bulletin secret. Si vous en êtes d'accord, on peut désigner sa remplaçante à main levée. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Donc, pour remplacer André Chaise à la commission des appels d'offres, je vous propose la candidature de Paul Wolf. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? En ce qui concerne le comité technique, qui se composait de titulaires Michel Bizassia, Gilbert Zavrosa, Antoine Di Paolo et Pascal Convert, suppléants Marc Jotti, Raymond Repellini, Sylvie Barbe, Fabrice Adam et Hugo Rodriguez-Souza. Je vous propose de demander à Sylvie Barbe de devenir titulaire et Isabelle Garbet suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Pour les autres commissions municipales, donc la commission finance actuellement, Michel Bizassia, Paul Wolf, Gilbert Zavrosa, Jean-François Sahuc, Isabelle Garbet, Fabrice Adam, Pierre Achat, Claude Bruno et Hugo Rodriguez-Souza. Je vous propose donc d'y ajouter Marc Jotti. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bravo Marc. Je siégerai à la commission finance. Il reste donc la commission éducation, qui était actuellement composée de Michel Bizassia, Lise Lafont, Florence Joly, Marie-Jeanne Scherrer et Hugo Rodriguez-Souza. Et je vous propose d'y ajouter Christine Gezins. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Christine Gezins intègre donc cette commission. Nous avons ensuite deux rapports à adopter. Il s'agit, le premier, du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable en 2019. Alors, vous avez eu des rapports. Ils ont été envoyés, Frédéric, aux élus? Oui? Bon. Donc, vous voyez, ce sont des gros rapports. Donc, moi, ce que je retiens, c'est la petite fiche de synthèse. Donc, à Saint-Étienne Métropole, il y a 191 609 abonnés pour 400 000 habitants. 24 520 000 m3 en distribués, 19 301 m3 consommés par les habitants, ce qui revient à 132 litres par habitant et par jour, en consommation moyenne. 99,7% des 2141 prélèvements réalisés sont conformes aux normes. Il y a 2532 km de réseau hors branchement, 9 usines de production, 135 réservoirs, et le rendement moyen du réseau est de 81,9. Ça veut dire produite par rapport à l'eau facturée. Donc on a une déperdition dans environ, 12%. 18%, pardon. Donc je trouve que cette petite fiche est très bien faite. Je ne sais pas si elle est, elle est envoyée aux abonnés. Bon, bien évidemment, on parlera très prochainement de cette problématique avec le contrat de concession de délégation du service public. Donc concrètement, la compétence eau potable a été transférée à Saint-Étienne Métropole le 1er janvier 2016. Le Code général des collectivités territoriales impose par son article L2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable. Ce rapport doit être présenté au Conseil métropolitain, puis à l'Assemblée délibérante de chaque commune et fait l'objet d'une délibération. Il est public et permet d'informer les usagers du service. Je vous demande donc de prendre acte de la présentation du rapport sur le prix de l'eau, le prix et la qualité du service public de l'eau potable 2019 de Saint-Étienne Métropole. Donc il n'y a pas de vote, Frédéric, hein, c'est une prise de. Une validation. Des questions sur la gestion de l'eau potable? On vous l'a dit. Un dossier très très déterminant de la mandature métropolitaine qui est engagée, en particulier pour nous, c'est-à-dire les 13 communes de ce qu'on appelle le secteur Furan. Le point suivant, c'est sur l'assainissement. Donc là aussi, à l'échelle de la métropole, 186 798 abonnés pour 410 243 habitants. 16 889 000 mètres cubes assujettis à la redevance assainissement, 1,87 € TTC par mètre cube, 1 996 km de réseau d'eau usée et unitaire, 50 stations d'épuration avec une capacité totale de 487 400 équivalents habitants, 8 811 tonnes de boue produite et 6 745 usagers à l'assainissement non collectif, donc des personnes qui ne sont pas connectées à un réseau. Des questions par rapport à l'assainissement? Alors l'assainissement dans les projets métropolitains, par contre, lui, restera en service public. Je vous remercie.
Oui, donc la délibération suivante concerne une convention pour la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. C'est donc une convention qu'on fait avec la préfecture de la Loire. Alors effectivement, lors de la séance du 2 juillet 2012, le conseil municipal avait décidé d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec la préfecture de la Loire pour bénéficier d'un dispositif de télétransmission des actes au contrôle de légalité. Je vous rappelle que tous nos actes, que ce soit les délibérations, les arrêtés, nos budgets, toutes nos décisions budgétaires sont soumises au contrôle de légalité, sont envoyées à la préfecture. Et avant, on faisait tout ça sous forme papier. On envoyait les budgets en 3 exemplaires. Donc, vous voyez déjà le pavé, on l'envoyait en 3 exemplaires. Donc, maintenant, ça se fait tout sous forme dématérialisée, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. La convention a pour objet de porter à la connaissance. Cette convention a pour objet de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu'ils soient en mesure de vérifier s'il est homologué dans les conditions prévues à l'article du Code général des collectivités territoriales. D'établir les engagements respectifs des deux parties pour l'organisation et le fonctionnement de la transmission par voie électronique. La convention relève de l'engagement bilatéral entre le représentant de l'État et la collectivité et permet de décliner localement les modalités de mise en œuvre de la transmission par voie électronique. Parce qu'effectivement, ça ne se transmet pas simplement comme ça, on n'envoie pas un mail, hein. Il faut que ce soit légalisé. Par exemple, pour recourir à la transmission, la collectivité s'engage à utiliser un dispositif précis qui s'appelle l'application Act XBus, qui fait l'objet d'une homologation par le ministère de l'Intérieur. Et on est obligé aussi de faire l'acquisition de certificats d'authentification, c'est-à-dire que les signatures sont bien entendu certifiées. C'est pas simplement une photocopie de la délibération papier. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un accusé de réception électronique est délivré automatiquement pour chaque acte, c'est-à-dire qu'on envoie à la préfecture, il nous renvoie un accusé de réception, et c'est cet accusé de réception qui atteste de la réception des pièces par les représentants de l'État. Et ça représentait avant le tampon que mettait la préfecture sur les documents. Et l'avantage, c'est que maintenant, nos documents sont certifiés et donc exécutoires beaucoup plus rapidement que quand on les envoyait par papier et qu'ils nous les renvoyaient, parce qu'il fallait attendre, effectivement, entre le moment où on envoyait les délibérations et le moment où on recevait la délibération tamponnée, elle ne devenait exécutoire qu'à partir de ce moment-là. Et cette convention, elle est donc faite, elle a une durée de validité d'un an, donc soit jusqu'au 22 mars 2022, mais ensuite, elle est reconduite d'année en année par reconduction tacite. Et ça, souvent, c'est jusqu'à ce que l'organisme avec lequel on travaille change, et souvent, à ce moment-là, on change la délibération. Mais tant que XBUC est valable, on restera sur cette convention. Donc, on vous demande aujourd'hui d'approuver la nouvelle convention actualisée, d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Des questions? En fait, c'est simplement donc un mode de dématérialisation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. On va demander peut-être à Jacques.
Oui, c'est l'éclairage de la rue de la Piau. Donc, il y a un petit chantier qui est engagé par le ciel, qui est maître d'ouvrage et qui exécute ses travaux. Donc, c'est un chantier de 11 640,88 €. Voilà, où la commune participe à hauteur de 11 408,06 €. Le ciel assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, comme je vous l'ai dit, pour ces petits travaux d'éclairage de la rue de la Piau. Ces travaux sont intéressants en termes d'esthétique et aussi surtout en termes de consommation, puisque les nouveaux candélabres sont des candélabres avec des LED et sont beaucoup moins énergivores. Voilà. Prendre acte que les travaux relèvent de la compétence de Saint-Étienne Métropole, approuver le montant des travaux, prendre acte que le versement des fonds de concours au ciel est effectué en une seule fois, décidé d'amortir comptablement ces fonds de concours sur 4 années et autoriser Monsieur le maire à les signer.
Donc les travaux, 11 640 avec une remise de 2% du ciel, 11 408,06. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Jacques, tu continues?
Oui. Donc, on a été approché il y a quelque temps par Madet Sécurité, qui souhaitait agrandir ses locaux et qui nous posait la question d'une mezzanine qui se situe dans le gymnase, mezzanine qui est en prolongement de ses bureaux, d'une surface d'environ de 65 mètres carrés. Donc, il y a eu une négociation, il y a une demande de valeur de ce bien qui a été fait auprès des domaines. Les domaines ont estimé ce bien à 32 000 €, ce qui fait à peu près du 500 € du mètre carré, un petit peu moins. Moi, je me suis renseigné sur une transaction qui a eu lieu sur la Tour Angeret, sur le bas de la Tour Angeret, le même type de local, ordo-order, c'est-à-dire avec dallage, élévation, bardage et toiture. C'est vendu 500 € le mètre également, donc on était dans les prix du marché. Donc on a discuté et transigé pour une vente à 35 000 €. L'ensemble des travaux frais de notaire, tout frais, étant à la charge de l'acquéreur. Voilà. Donc, on vous demande cette session.
Sachant que l'estimation des domaines était de 32 000 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour cette vente. Valide la validation de cette vente. Le point suivant, c'est la modification du tableau des effectifs. Donc, vous savez maintenant, depuis un an, cette mécanique. Chaque fois qu'on a des mouvements du personnel, soit dans le cadre des déroulements, des promotions, on anticipe leur positionnement dans le nouveau tableau des effectifs. Donc, les agents communaux peuvent bénéficier d'évolutions de carrière de différentes façons. soit en passant des concours et des examens professionnels, soit en obtenant un avancement de grade, soit en bénéficiant d'une promotion interne. Cette année, 4 agents de la collectivité peuvent bénéficier d'un avancement de grade. Leur nomination ne peut intervenir qu'à condition que le ou les grades concernés auxquels ils vont accéder soient ouverts au tableau des effectifs de la commune. De plus, il convient de pourvoir au remplacement d'un départ pour mutation au service de la police municipale en transformant le poste de chef de service de police municipale principale de première classe en un poste de brigadier-chef principal à temps complet. Un assistant d'enseignement artistique principal de première classe a annoncé sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021. Pour pallier à son remplacement, il est proposé d'ouvrir 2 postes d'assistant d'enseignant artistique principaux de deuxième classe à temps non complet, un poste à 8 heures sur 20 et le deuxième à 4h30 sur 20. Donc ça veut dire qu'en définitive, les 12h30 qui étaient affectés à cet enseignant, en l'occurrence de percussion, sera réparti sur deux nouveaux enseignants. Il y en aura un, je crois, en percussion et l'autre en jazz et musique actuelle. Ainsi, compte tenu des différentes propositions de promotion d'avancement de grade pour l'année 2021 et des futurs recrutements suite au départ d'agents de la commune, au 1er avril 2021, le nouveau tableau des effectifs est fixé comme suit, donc vous l'avez. Et est-ce que, je ne sais pas, vous avez des questions particulières par rapport à ce tableau ? Vous avez toujours les postes ouverts par la délibération antérieure, les postes pourvus au 31 mars et les postes ouverts au 1er avril. Donc actualisés, compte tenu de la décision d'aujourd'hui. Donc 183 postes initialement, 147 en cours et 188 au 1er avril. On est bien d'accord, ce ne sont pas 188 salariés qui sont en poste, mais les postes qui sont pour voir si on pourra un salarié, on peut avoir au même moment son ancien grade et son futur grade. Des questions par rapport à cette mécanique qu'on vous présente maintenant assez régulièrement ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Le dernier point de cet ordre du jour concerne une convention avec le centre de la fonction publique territoriale de la Loire. Afin d'assurer le remplacement d'un agent titulaire en congé maternité, donc qui va partir en congé maternité, donc un agent du service état civil, le centre de gestion de la fonction publique de la Loire s'engage à mettre un agent à la disposition de notre collectivité selon les conditions définies dans la convention ci-annexée. Donc en fait, on s'adresse au centre de gestion pour qu'il nous propose une collaboratrice qui remplacera, donc qui sera présente en mairie dans le cadre d'un remplacement sur une maternité. L'avantage de cette démarche, c'est que ce sont des gens qui sont déjà fonctionnaires, qui sont déjà formés, qui sont opérationnels. L'agent sera recruté et rémunéré par le centre de gestion. La collectivité paiera au centre de gestion le prix de la prestation correspondant au remboursement de la rémunération brute de l'agent, y compris les congés annuels et au remboursement des charges patronales y afférentes, majoré d'un supplément fixé par délibération du conseil d'administration, servant à couvrir les frais de gestion et de coordination du service de remplacement. Donc je vous demande de bien vouloir valider cette convention et m'autoriser à la signer. Et donc cette personne sera recrutée pendant toute la durée du congé maternité. Alors on a déjà identifié une personne qui devrait arriver, Frédéric, vous me coupez si je me trompe, le début avril, pour travailler pendant tout le mois d'avril avec la personne qui va partir. En l'occurrence, c'est Virginie Bizassia qui va être maman une seconde fois, je crois, ou une troisième fois. Des questions ? En fait, le centre de gestion fonctionne un petit peu comme une agence d'intérim pour les collectivités territoriales. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de rechercher. Il nous a proposé 2 ou 3 candidatures, on les a reçues, et on a privilégié celle qui nous convenait le mieux. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Donc on en a fini avec les questions du officiel, majeure partie du conseil municipal, et je vous en remercie. Est-ce que vous avez des questions particulières avant qu'on évoque les questions diverses ? Alors je voudrais en évoquer 3, et puis malheureusement une dernière qui est de toute actualité. Donc la première, je vous ai envoyé les éléments, c'est le plan de relance métropolitain, donc qui a été validé par la conférence des maires jeudi dernier et qui va être vraisemblablement voté par l'Assemblée plénière de jeudi prochain. Je voulais lire simplement l'introduction. On vient de recevoir cet après-midi le règlement administratif de ce plan de relance. Face à la crise sanitaire et économique hors du commun liée à l'épidémie de Covid-19, l'exécutif de Saint-Étienne Métropole a souhaité mettre en place un plan de relance économique, écologique et solidaire d'envergure intitulé plan de relance métropolitain, destiné à soutenir la reprise économique et à dynamiser les politiques prioritaires du territoire. Ce plan de relance d'un montant de 320 millions d'euros au bénéfice des équipements communaux et au service de la population comprend plusieurs enveloppes. 150 millions d'euros pour le soutien à la relance de l'investissement et la reprise d'activité, qui se décline ainsi. 70 millions d'euros avec 53 millions d'euros pour des projets d'investissement proposés par les communes du territoire, 7 millions d'euros pour les ouvrages d'art et 10 millions d'euros de bonification des enveloppes voiries des communes. 20 millions d'euros à l'enseignement supérieur et non prioritaire au CPER, 20 millions d'euros pour l'accompagnement des start-up, 20 millions d'euros pour la transition écologique vers le citoyen, soutien aux ménages les plus modestes pour améliorer leur reste à vivre, et 20 millions d'euros pour la rénovation urbaine hors en rue. En plus de ces 150 millions d'euros, il y en a 150 millions prévus qui sont fléchés dans un nouveau dialogue avec les établissements bancaires et organismes prêteurs afin de garantir l'accès aux prêts de toutes les communes du territoire dans les mêmes conditions que la métropole et ainsi faire émerger sur les territoires des projets nouveaux. C'est important pour nous. On vous a dit qu'on avait des difficultés à trouver des partenaires. La métropole, en fait, je dirais, négocierait pour nous, de dire les conditions que les établissements bancaires accordent à la métropole, vous devez les accorder aux communes membres de la métropole. Et enfin, 20 millions d'euros dédiés à des mesures sociales pour faire émerger un bien-être social. Ce plan de relance métropolitain se traduit par la création d'un mécanisme de fonds de concours, donc pour nous, à destination des communes du territoire, doté d'une enveloppe de 53 millions d'euros pour la période 2021-2023 et qui s'inscrit dans les objectifs suivants. Impliquer les communes dans la relance du territoire. Soutenir les actions qui entrent dans le cadre de la relance du territoire. Respecter les clauses d'insertion et de développement durable. Développer l'attractivité des communes et le soutien aux populations. Le fonds de concours ne pourra en aucun cas financer un équipement d'une commune dans le cadre d'un budget annexe de Saint-Étienne Métropole. Les EPCI sont régis par un principe de spécialité fonctionnelle qui leur interdit d'intervenir au-delà du périmètre de leurs compétences. Par dérogation, le Code général des collectivités territoriales prévoit qu'afin de financer la réalisation d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés par un EPCI à fiscalité propre à ses communes membres. Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités d'attribution de ce fonds de concours en investissement à destination des communes et serait mis en place à compter de son adoption par délibération du Conseil métropolitain, donc jeudi prochain, jusqu'au 31 décembre 2023. Donc à cet effet, il est proposé au Conseil métropolitain d'adopter un règlement administratif et financier pour l'attribution de ces fonds de concours plan de relance métropolitain pour la période 2021-2023. Je vous ai envoyé un petit mail jeudi soir pour vous rappeler un petit peu la mécanique. Donc, les communes pourraient bénéficier, chaque commune, jusqu'à 3 millions d'euros de concours sur 3 projets. C'est-à-dire que la mécanique est la suivante. Une commune bâtit un projet d'investissement, va chercher des subventions, il lui reste à charge une certaine somme, et bien ce reste à charge est pris pour moitié sur le fonds de concours métropolitain, donc sur 3 projets et dans la limite de 3 millions d'euros. Alors bien évidemment, toutes les communes n'iront pas chercher 3 millions d'euros, parce que ça veut dire qu'il faut mettre un projet, enfin 3 projets à hauteur de 6 millions d'euros en reste à charge, ce qui n'est pas envisageable. C'est pour ça que le calcul qui consisterait à dire 3 millions d'euros par 53 communes, ça ne rentre pas dans l'enveloppe. Beaucoup de communes ont dit on ira chercher 100, 150 ou 200 000 euros. Donc là, il y a une opportunité sur laquelle on va devoir se pencher, surtout qu'on travaille, on vous l'a dit tout à l'heure, à un plan pluriannuel d'investissement. On est tout à fait dans ce cadre-là et on va rentrer dans les conditions pour en bénéficier. Le second, il est mécanique, c'est un renforcement de notre enveloppe voirie. En ce qui nous concerne, c'est 50% d'une enveloppe annuelle. Une enveloppe annuelle, c'est environ 300 000 euros. ça veut dire que Saint-Étienne Métropole nous débloque 150 000 euros sur nos projets voiries à consommer sur les 3 ans, comme on veut, en une année pleine, ou 50 000 euros par an ou autre. Et le troisième élan qui nous concerne, c'est 40 000 euros dédiés aux ouvrages d'art, essentiellement les ponts, et je pense en particulier au pont qui est rue de la République, au-dessus de la rue François Mitterrand. Donc voilà, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Vous voyez un petit peu la dimension des enveloppes financières qui sont mises sur la table. Et là, quand on avait parlé déjà d'une majoration d'enveloppe voirie, beaucoup avaient dit « Oh, ben, Perdriau avait dit oui, peut-être », mais là, il l'a fait. Hein. Donc, l'ensemble des maires ont vivement remercié l'exécutif métropolitain et les services qui ont su travailler dans ces grilles et ces clés de répartition de façon très, très intéressante et de façon à pouvoir satisfaire l'ensemble des communes, petites ou grandes, rurales ou urbaines. Des questions par rapport à ça? Le second point que je voulais évoquer avec vous, c'était la prise en charge des seniors pour la vaccination. Donc on vous avait dit qu'on avait eu un premier créneau il y a 2 semaines environ, qui nous a permis, avec le minibus et 3 véhicules, d'accompagner 24 seniors sur une première vaccination au centre de vaccination du CHU. Ça s'est très bien passé. Ça a bien fonctionné dans notre organisation. On avait 82 seniors détectés comme souhaitant se faire vacciner et qui n'avaient pas pu, au moment où on a engagé la démarche, trouver un créneau. Donc on a pu en faire vacciner 24 et après on s'est dit « et les autres ?». Donc on a repris contact et avec l'ARS et avec les autres seniors. Au moment où on les a contactés, il n'y en avait plus que 40 qui n'avaient pas trouvé de créneau pour se faire vacciner. Et l'ARS nous a ouvert un créneau jeudi prochain. Et donc, en définitive, un nouveau contact pris, on n'aura plus que 24. 23 exactement. Parce qu'il y en a qui sont hésités, il y en a qui ont dit « Ah, mais on ne veut pas du Moderna, on veut du Pfizer », enfin bon, bref. Toujours est-il qu'on va mener cette deuxième opération de façon à ce qu'on puisse dire que l'ensemble de nos seniors de plus de 75 ans qui souhaitaient se vacciner sur Saint-Priest-en-Jarret l'auront été. Donc, je vous ai sollicité par mail. Bon, on a pas mal, on est un peu pris de court parce qu'on pour s'organiser une semaine. Donc, on aura bien évidemment le minibus avec Marc et Nicole Rodriguez du CCAS. Et puis, on va tourner qu'avec 2 autres équipages au lieu de 3. Mais ça sera possible dans le créneau de 2 heures parce que cette fois-ci, ce sont souvent des couples. Donc, plutôt que d'aller chercher 2 personnes à 2 endroits différents, on va chercher les 2 personnes au même endroit. Donc, je pense que en raccourcissant un petit peu les délais de prise en charge, on devrait tout à fait pouvoir prendre ces personnes-là en charge dès jeudi prochain. Et à ce moment-là, on fera un petit article dans la presse, quand même. Le troisième élément dont je voulais vous parler, je vous l'avais déjà évoqué. Donc, on a vendu. Vous avez aujourd'hui acté le principe de vendre une partie de nos locaux, l'espace loisir à Madet. Donc, on est en réflexion également pour vendre 2 terrains. Le premier, vous le savez, c'est le terrain rue du Péchier qui se trouve, quand on vient de Ratarieux, juste après Loire Merlin, avant l'entrée de la Stas. C'est un petit terrain qui avait déjà été envisagé à la vente il y a quelques années, ça ne s'était pas fait. Donc actuellement, on a 3 propositions intéressantes. Donc moi, simplement, ce que je vous dis, on part du principe que oui, on va vendre. Et le moment venu, on vous présentera les projets pour que vous puissiez vous prononcer. Et le second, alors ça, ce terrain, c'était, je cherche, je ne trouve plus, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et le second, c'est un terrain qui se situe au Charpenais. Alors là, le terrain dont je vous parle, le Péchier, c'est les références cadastrales A51 et A52. Et donc le deuxième terrain, c'est au Charpenais, un terrain qui en fait englobe le City Stade. Donc c'est la parcelle 158. Mais bien évidemment, ce n'est pas l'ensemble qui va être proposé à la vente. C'est une bande de terrain qui permettrait de construire l'équivalent de 3 groupes de maisons comme ça existe au Charpenais. Au Charpenais, ce sont des lots de 2 maisons à chaque fois. Donc là, ça pourrait permettre d'en faire 6. Là, on a là aussi quelques acquéreurs qui réfléchissent, qui seraient intéressés. Donc le moment venu, on vous proposera de valider la vente de ce terrain. Ça nous résoudra peut-être aussi un petit peu le problème de la population qui nous gêne sur ce City Stade, peut-être d'ailleurs dans une logique de logements sociaux, puisque tout le Charpenais normalement est en pour ce qui est du locatif en logement social. Donc, il y a Cité Nouvelle, il y a Bâtir et Loger, entre autres, mais pas seulement. Donc, voilà, ces deux terrains, actuellement, qui ne nous sont pas d'un apport évident et qu'on pourrait également vendre. Et cette vente, vous avez bien compris, bah, ça va nous permettre d'augmenter, là aussi, notre capacité d'autofinancement pour aller plus loin dans certains projets d'investissement. Donc, le moment venu, on vous soumettra la décision, un, de vendre, et ensuite le choix de l'acquéreur. Enfin, le dernier point que je voulais vous évoquer, je vais vous le dire. J'ai reçu ce soir, juste avant la réunion, un courrier qui est signé par les enseignantes de l'école Jean Massé, route de l'Étra, Saint-Priant-Jarret. Alors, je préfère vous communiquer l'information plutôt que vous ne l'appreniez dans les jours qui viennent. Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, monsieur le maire, par la présente, nous souhaitons vous relater les faits qui se sont produits le 19 mars 2021, l'agression de Madame Danière. Madame Danière, c'est la directrice de l'école. Madame Danière a dû gérer une situation d'insulte de la part des élèves de CM2 envers une élève de moyenne section. C'est-à-dire qu'il y a 6 enfants de CM2, 10-11 ans, qui s'en sont pris à une gamine de moyenne section, 4 ans. Et sa mère, donc, lors d'un temps d'études. Donc, ils ont insulté et la petite fille et la maman. Madame Danière, la directrice, et Madame Froment, une institutrice, ont d'abord reçu la maman insultée, puis elles sont allées voir les élèves de CM2 pendant leur temps d'études pour éclaircir la situation. Les 6 enfants étant en études, ils sont allés les trouver. À 17h40, après l'étude, Monsieur X a sonné à la porte de l'école. Il était avec sa fille, qui faisait partie des 6 enfants qui avait verbalement agressé la petite fille, et voulait un rendez-vous tout de suite. Madame Danière a dit que ce n'était pas possible. À 17h40, un vendredi, ce n'est pas envisageable. Il a demandé pour le lundi, et elle ne pouvait pas non plus. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'on accuse sa fille, qu'elle n'était pas bien. Madame Danière a répondu que c'était peut-être qu'elle avait des choses à se reprocher, parce qu'elle faisait bien partie des 6 enfants identifiés, sans aucune hésitation. Il a commencé à hausser le ton en disant qu'il allait lui envoyer un mail et qu'il voulait une réponse pour un rendez-vous. Madame Danière a dit oui. Il a dit qu'il allait envoyer un mail à l'académie. Madame Danière lui a dit qu'il pouvait. Il a commencé à crier et avec son doigt pointé vers Madame Danière en lui disant qu'il n'avait jamais eu de discussion avec elle, mais qu'elle allait la voir, sa discussion. Madame Danière lui a demandé d'arrêter de la menacer. Il a continué en s'approchant de plus en plus. Madame Danière a fermé la porte, il a donné un coup de poing dans la porte et un coup de pied dans la porte, et il a crié « Je vais vous tuer » en faisant le geste. Puis il est parti. Madame Danière, très choquée, a fini aux urgences et se retrouve en arrêt de travail pour 15 jours. Cette agression, disent les enseignantes, nous a beaucoup choqués. Depuis vendredi, nous avons échangé pour voir la marche à suivre, lundi. Nous sommes très stressés par cette situation et appréhendons beaucoup la reprise de lundi matin, mais aussi les jours à venir. Nous n'avons pas pu nous reposer ce week-end. Nos nuits ont été rythmées par des angoisses. Nous ne savons pas comment appréhender la relation aux parents, comment gérer une nouvelle agression de parents, les réponses à donner aux interrogations des élèves. Depuis plusieurs mois, un certain nombre de parents exercent une pression sur le corps enseignant. Cela pèse énormément sur nos conditions de travail et donc sur notre bien-être et notre santé. Plusieurs faits établis ont été remplis par Mme Danière. Nous venons chaque jour à l'école avec la boule au ventre. Nous espérons sincèrement pouvoir trouver une solution avec votre aide afin que le climat scolaire et nos conditions de travail s'apaisent. Donc ce matin, avec notre police municipale et Antoine, nous étions à 8h à l'école Jean Massé. On a pu rencontrer nos personnels, agents techniques et ATSEM, qui étaient bien évidemment au courant. On a rencontré une institutrice. On a rencontré Madame Tolo, l'inspectrice, qui était venue. On a rencontré les parents délégués du conseil d'école. Je leur ai présenté bien évidemment notre soutien absolu aux enseignants et aux parents. Et nous avons défini avec Madame Tolo le principe d'agir ensemble. L'individu a été placé en garde à vue dimanche. Bien sûr, il a nié les faits, mais il y a des enseignants qui sont témoins. Donc on cherche actuellement des solutions pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Et il y a en particulier une solution qu'il va falloir régler. Quand Madame Danière, après les vacances de Pâques, va rentrer, il est hors de question qu'elle ait en face d'elle dans sa classe les 6 enfants, et en particulier cette petite fille. On ne sait pas ce qu'elle est allée raconter à son père pour qu'il se comporte de cette façon. Alors, cela dit, on ne va pas non plus être naïf. C'est une famille que l'on connaît déjà depuis pas mal de temps, qui habite à proximité de l'école et qui est connue. Donc, j'ai également tout de suite prévenu le toit forésien, le bailleur social, de cette situation. Donc voilà, on cherche une réponse collective et qui soit, je dirais, sévère à la hauteur des faits. Parce que déjà que des enfants de 11 ans s'en prennent à une petite fille de 4 ans parce qu'elle porte tel vêtement ou Lacoste ou Nike, je vois pas bien le problème. Mais qu'ensuite le père vienne menacer, et donc ce sont des menaces qui sont graves, hein, je vais vous tuer, et il a fait le geste. On voit bien dans quel état d'esprit ça peut se passer. Le traumatisme de Mme Danière, on connaît Mme Danière, c'est pas quelqu'un qui se plaint, c'est pas quelqu'un qui s'écoute, hein, c'est pour qu'elle en soit là, c'est que vraiment elle a été éprouvée. C'est la porte qu'en fait qui l'a protégée, sinon sans doute il l'aurait frappée. On ne peut pas continuer comme ça dans ce genre de situation. Donc voilà, sachez-le. Bon, vous entendrez sans doute parler, parce que quand je suis parti de l'école ce matin, bien sûr, tous les parents en discutaient. La maman amenait sa gamine tranquillement, et après, il paraît qu'elle continuait à crier dans les couloirs. Bon, la meilleure des défenses, c'est l'attaque, je veux bien, mais à un moment donné, ça suffit, quoi. Donc voilà, sachez-le. C'est pas très grave, c'est pas dramatique, mais une fois de plus, ça vient s'ajouter à d'autres faits qu'on connaît, ça et là, et pour lesquels on peut pas continuer à dire, c'est pas grave, ça va passer. C'est vrai que je pense que Mme Danière leur a peut-être dit, ben, vous êtes les caïds, hein, 11 ans là, par rapport à une gamine de 4 ans. L'an prochain, quand vous allez arriver au collège, les caïds, ils auront 14-15 ans. Ça sera peut-être plus pareil. C'est peut-être ce qui n'a pas plu à la petite fille qui s'en est plainte à son père. Ça me rappelle des choses qu'on a entendues il n'y a pas très longtemps, d'enfants qui se plaignaient à leurs parents et qui allaient régler les problèmes après à leur façon. Donc voilà, sachez-le, ça vient d'arriver. On vous tiendra informé des suites, parce qu'on va prendre des décisions avec l'inspection académique, de façon à ce que les parents comprennent que c'est une situation qu'on ne peut pas tolérer. Donc voilà. Avez-vous d'autres questions à évoquer au conseil municipal? Je vous rappelle quand même le samedi 10 avril à 8h30, on essaiera de fournir les viennoiseries, le café, notre séminaire. Alors l'idée du séminaire, je vous le rappelle, parce que j'en ai discuté avec certains et certaines d'entre vous, c'est de mieux se connaître. On voulait le faire au mois de septembre, on n'a pas pu. On voulait faire une journée avec un repas, on n'a pas pu. Donc l'idée, c'est que pendant cette matinée, on puisse discuter de ce qui nous concerne. Moi, je vous demanderai à cette occasion de dire ce qui vous semble bien, ce qui vous semble perfectible, ce qui va pas, ce qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Enfin, un petit peu cette logique pour que chacun se sente à sa place et qu'on puisse continuer à assumer notre mandat dans de bonnes conditions. On a vécu une année très particulière avec ce Covid. J'en parle souvent avec Frédéric Billon, même avec les services, on sent que c'est pas comme avant. Donc on va quand même continuer à travailler dans de bonnes conditions, à se projeter dans l'avenir, on est là pour ça. Pour ça, pour nous et aussi pour nos habitants. Hein. Donc voilà l'idée du séminaire. Alors on évoquera bien sûr quelques problèmes techniques, on parlera du plan pluriannuel d'investissement, on parlera peut-être, je sais pas, de l'avancée des réflexions sur la Villa Saint-Michel, mais je veux pas que ce soit une réunion de travail comme on a nos réunions plénières ou nos conseils. Ce sera vraiment une réunion de... pour mieux se connaître, pour que chacun puisse dire, voilà, j'ai découvert ça, ça me plaît bien, là, on peut faire mieux. Peut-être que je suis peut-être trop patriarche, je dirais, en vous préparant la réunion une semaine avant avec des dossiers, etc. Ou pas. C'est vrai que, bon, par moments, on se dit, il n'y a pas beaucoup de prise de parole, mais on n'a pas non plus des sujets clivants qui amènent des interventions. Donc, l'idée du séminaire, voilà, c'est d'échanger et puis qu'on trouve un rythme et une dynamique de continuité pour ce mandat. Voilà. D'autres questions? Alors, on va vous présenter, quand il sera finalisé, un plan pluriannuel d'investissement qui est en fait le recueil par service des souhaits, des besoins d'investissement. Alors, on a bien compris qu'on ne va pas passer à Métropole des petits budgets comme on aurait pu le faire pour le NEC, 50 000 euros, on va chercher 30 000 euros, il reste 20 000, c'est 10 000 chacun. Avec en particulier Jacques et Michel vont travailler, ils travaillent déjà sur des problématiques liées à nos bâtiments et je pense aux écoles, où là les enjeux financiers, enfin les besoins vont être beaucoup plus importants et donc les enjeux financiers qui en découlent également, et c'est sur des projets, on n'ira peut-être pas d'ailleurs à 3 projets, je ne sais pas. Mais on fera en sorte quand même de profiter de cette opportunité qui est vraiment un élément important. Parce que, bon, bien sûr, il faut cofinancer, mais je crois qu'on ne s'attendait pas non plus à une telle opportunité d'action. Donc on ne la laissera pas passer. Et donc à ce moment-là, en fonction de la priorisation de ces projets, on vous proposera de proposer tel ou tel projet. Mais ce qui est agréable aussi dans cette démarche, c'est généralement quand on a des projets comme ça, c'est vous devez répondre pour le 31 mars. Là, on a 3 ans. Et Galet Perdriau s'est engagé à ce que la commune, le maire, qui déposera un projet valide fin 2023, ait également la même garantie de participation financière que ceux qui déposent des dossiers aujourd'hui. Voilà. Alors, on peut en profiter. Alors, vous verrez hein, dans le document qu'on vous fera parvenir toutes les thématiques possibles. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, ça va être un choix stratégique. Qu'est-ce qui vaut mieux privilégier ? Une grosse enveloppe, d'accord, mais ça veut dire qu'on est cofinanceur. Donc si on cofinance, il faut aller chercher le financement à notre niveau. Un budget ou un projet peut-être un peu moins ambitieux, donc avec un financement à notre niveau moindre, mais qui est tout aussi important pour la commune. Donc ça, ça sera un choix stratégique en fonction des projets qui vous seront présentés. On va. Et bien sûr, nos disponibilités financières. Parce que si on. Voilà, c'est ça. Bien sûr. En fait, sur les bâtiments, Jacques, vas-y.
Rajouter aussi avec en arrière-pensée toujours le volet de dire on vise une écologie des bâtiments, une amélioration thermique de nos bâtiments. Et donc, à moyen terme, pour nous et nos successeurs, ce serait une baisse des frais de fonctionnement. Parce que quand on a rajouté sur l'école Jules Ferry, il y a 10 cm de laine de verre en plafond actuellement. Quoi. Donc, c'est le minimum syndical, voilà, ça date de 30 ans, c'est comprimé, ça vaut rien. Et donc, ça fera partie des presque, à mon sens, ça, des passages obligés. Après, il y a des choses sur lesquelles il faut y réfléchir, en parler, échanger. Voilà. De baisser les frais de fonctionnement aussi. Quoi. Voilà. C'est important, et le confort d'hiver dont tu parles, il est aussi confort d'été lorsque les canicules arrivent et les grandes chaleurs arrivent. Donc c'est un tout, quoi.
Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour, et puis au 10 avril. Et pour ceux qui sont volontaires pour jeudi, je vous tiens au courant hein, sur l'organisation.